tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, on va parler des alimentations végétales avec Sébastien. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Les Conversations de mythes. Bonjour Sébastien.
Bonjour Justine.
Merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, donc moi je suis spécialiste en médecine générale, donc je suis médecin généraliste et j'ai une petite spécificité sur les alimentations végétales. Voilà, je me suis formé depuis quelques années sur ce sujet et actuellement je suis aussi en master de santé publique, promotion de la santé, parce que ben ça fait partie des sujets hyper très importants dans le cadre de mon métier. Et ça me fait plaisir de pouvoir venir en parler avec toi.
Eh ben écoute, je dois t'avouer que je suis très contente aussi parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement. Donc j'ai plein de questions à te poser.
Super.
Alors la première question. Donc j'ai dit qu'on allait parler des alimentations végétales, donc au pluriel. Est-ce que déjà tu peux nous dire si il y a plusieurs types d'alimentation végétale et si oui, quelles sont-elles?
Oui. Alors, il y a vraiment plusieurs types d'alimentation végétale en sachant du coup qu'elles sont considérées de là où on part, c'est-à-dire l'alimentation à l'heure actuelle. Alors souvent, on se base sur le pourcentage de protéines et de l'origine de ces protéines pour pouvoir les qualifier. Actuellement, dans la population française, on consomme à peu près 65% de nos protéines qui viennent de produits animaux et donc le reste de produits végétaux. La plupart des recommandations nous indiquent d'aller vers un équilibre, c'est-à-dire vers 50-50. Donc déjà, on voit qu'on peut commencer à végétaliser de cette manière-là. Après, il y a plusieurs types d'alimentation, alors souvent qui ont été mises en place pour des raisons de santé. On peut penser à l'alimentation pour lutter contre l'hypertension artérielle, qui s'appelle la DASH, où là, on voit qu'il y a une limitation vraiment des produits de la viande, très très clairement. Il y a tout ce qu'on appelle les alimentations méditerranéennes aussi. Alors là, pareil, j'en parle au pluriel. Alors, c'est pas le sujet, on pourrait faire tout un podcast dessus, mais qui ont la particularité en fait de pareil, d'être très limité en viande rouge et d'avoir une petite consommation effectivement de volaille. Après, quand on va un petit peu plus loin, il y a les alimentations végétariennes. Donc là, on supprime la viande et le poisson. Alors des fois, on fait une petite nuance sur les pesco-végétariens, ça dépend un peu des études et il y a des apports encore un peu différents. Et on peut même aller plus loin dans les alimentations végétales, c'est-à-dire des alimentations 100% végétales, donc des alimentations végétaliennes où là, on supprime aussi les produits animaux, type produits laitiers et œufs. Donc voilà principalement un petit peu la gradation qu'on fait dans les alimentations végétales.
Ok, moi j'entends parler de flexitarisme parfois.
Oui.
Où est-ce que tu le classes alors ça?
Alors le flexitarisme c'est effectivement intéressant, je ne l'ai pas abordé là parce que c'est un mot qui est devenu un peu galvaudé. Alors il y a le flexitarisme version, clair, lobby de la viande on va dire, qui eux considèrent qu'en fait il ne faut rien changer. Grosso modo, on serait, pour reprendre leur thème, naturellement flexitarien, parce qu'on a déjà des aliments végétaux dans notre alimentation. Alors on voit que cette définition a un peu quelques limites. Souvent on dit qu'une personne flexitarienne, c'est quelqu'un qui a pris la décision, consciemment, de diminuer sa consommation de viande. Et je trouve que c'est déjà plus intéressant de la considérer comme ça. Et on pourrait effectivement dire que quelqu'un, par exemple, qui vient rééquilibrer les apports en protéines, donc 50% d'origine animale, 50% d'origine végétale, est flexitarien. C'est une définition que je trouve assez consensuelle, on va dire. Mais c'est une prise de décision qui se traduit aussi en action. Hein, parce qu'une prise de décision, c'est intéressant, mais il faut que ça se retrouve dans l'assiette.
Mmh. C'est aussi cette définition moi, que j'avais plutôt en tête. Okay. Alors, aujourd'hui, dans les recommandations officielles qu'on a, on nous parle quand même de végétaliser son assiette. Mmh. Mais concrètement, pour nos patients, les patients qu'on a en consultation, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors concrètement, effectivement, là, il y avait vraiment un large consensus pour dire qu'il faut végétaliser notre alimentation. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors le degré de végétalisation, là, il y a des fois des discussions, mais c'est effectivement par où on commence. Et souvent, ça se traduit quand même déjà par lutter contre une idée reçue, que la viande sera indispensable dans un repas. Ça, clairement, c'est une des premières recommandations de l'OMS, d'ailleurs, sur les alimentations végétales. C'est déjà de lutter là-dessus. On le voit, en France, on consomme pas assez de légumineuses, qui sont des aliments hyper intéressants. Et déjà, c'est essayer de rééquilibrer, de réintroduire dans l'assiette des légumineuses. Alors, pas au lieu et à la place de la viande, j'insiste un petit peu là-dessus. C'est-à-dire, faut pas chercher à enlever la viande de l'assiette et vouloir le remplacer par quelque chose d'autre. C'est un équilibre total qui est à trouver. entre effectivement les légumineuses, tout ce qui va être noix, tout ce qui va être fruits secs, les céréales, et puis bien sûr les fruits et légumes. Et tout ça, c'est un équilibre en fait où il faut repenser l'assiette plutôt que de vouloir juste remplacer la viande.
Souvent, l'erreur que j'ai pu constater, c'est que on enlève la viande et donc du coup, on se retrouve avec légumes et féculents.
Oui. Alors ça, c'est, et notamment on voit ça dans la restauration collective parfois, où quand on nous demande un plat végétarien, en fait, on nous sert un plat où on a juste enlevé la viande.
C'est ça.
Ben non.
Et donc là, on s'expose à des carences forcément. Et donc c'est vrai que j'avais tendance à dire qu'il fallait justement remplacer cette viande par autre chose, mais en fait, t'es en train de dire que finalement, c'est pas suffisant, c'est ça qu'il
faut... Alors, c'est pas suffisant, mais c'est qu'on peut le penser autrement. Alors, effectivement, après, faut y aller aussi progressivement, parfois. Après, il y a des gens qui y vont plus vite, on aura l'occasion d'en parler. Mais effectivement, dans un premier temps, déjà, de mettre des légumineuses à la place de la viande. Mais après, l'équilibre de l'assiette, elle se fait un peu naturellement, on va dire, parce que la satiété arrive pas pareil, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui font qu'on va venir rééquilibrer les choses. Mais c'est pas faux non plus de dire, effectivement, que dans un premier temps, on enlève la viande, on met des légumineuses à la place, par
D'accord.
exemple. C'est le premier conseil qu'on peut donner, oui.
Actuellement, dans les recommandations qu'on a, on est, en termes de protéines animales, on en parlait tout à l'heure en off, on est sur 500 grammes de viande. Alors, viande rouge, donc on inclut bœuf, agneau, le porc.
Porc aussi,
ouais. Voilà, donc on est sur 500 grammes par semaine, donc hors volaille. Je crois qu'il n'y a pas de limite sur les œufs.
Pas à ma connaissance non plus.
Poisson, on a tendance à dire que ça peut être deux à trois fois par semaine.
Alors, on est même plutôt à deux, en fait.
Fois,
oui,
ouais.
Alors, c'est toute la question du poisson qui est un petit peu compliquée, parce qu'à la fois, les recommandations nous demandent d'en manger un peu plus, et à la fois, de ne pas en manger trop pour un problème d'exposition aux métaux lourds. L'ANSES a mis des recommandations là-dessus. Faut faire attention, effectivement, sur le poisson aussi. Mmh.
Est-ce que dans les deux portions de poisson, on inclut les petits poissons gras?
Justement, un gras et un non gras,
voilà,
en fait.
Okay.
C'est, en sachant que les poissons gras, qui sont entre guillemets les plus intéressants d'un point de vue nutritionnel, sont aussi ceux qui vont concentrer le plus les métaux lourds. Donc c'est là où il y a un petit point d'attention. Voilà.
Ok. Et on a aussi recommandé deux portions de légumineuses par semaine. Donc finalement, on se rend compte, c'est ma conclusion, qu'on peut faire des repas avec des protéines animales très souvent. Parce que comme on n'a pas de limite sur la volaille, sur les œufs, on se retrouve... Enfin, finalement, si allez, on part du principe qu'on a 14 repas sur la semaine, ça nous en fait 2 avec des protéines végétales. Donc on est quand même sur 12 repas, on va dire, plutôt à tendance protéines animales.
C'est... Ce qui serait beaucoup trop. Ce qui serait vraiment beaucoup. Alors, il faut savoir que dans la rédaction, en fait, des recommandations, il y a une chose qui est prise en compte de manière assez forte, on va dire, c'est les habitudes alimentaires. Globalement, on le sait, des légumineuses 2 fois par semaine, c'est pas assez pour les recommandations, mais ça serait déjà un pas important. À l'heure actuelle, on n'en est même pas là.
Ouais.
C'est pour ça, il faut vraiment considérer d'où on part, et c'est pour ça que les recommandations, même actuellement, c'est plutôt des allées vers. Aller vers moins consommer de viande, aller vers consommer plus de légumineuses. Il y a vraiment des incitations à ce niveau-là qui sont importantes et qui doivent évoluer avec le temps aussi.
Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait une réactualisation du PNNS.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux déjà nous spoiler un peu?
Alors, te spoiler sur les recommandations? Non, je suis pas dans les petits papiers pour savoir la suite. Mais effectivement, le programme national nutrition santé doit être remis à jour, parce que là, la quatrième version s'arrêtait en 2023. Et en fait, il y a la Société française de nutrition et le réseau Action Climat qui ont publié là le 20 février un rapport assez important où déjà pour que l'empreinte environnementale de nos repas soit prise en compte dans les recommandations. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Alors, c'est le cas quand même dans une bonne partie des pays et notamment dans les pays voisins. Donc, on aimerait aussi que la France le fasse. Et puis, tout simplement, pour respecter les accords de Paris, il y a un moment donné où on n'a pas le choix. Il va falloir agir sur l'alimentation. Et en fait, du coup, ils ont modélisé en fonction des contraintes environnementales où ils se sont rendus compte que pour respecter les accords de Paris, il faudrait diminuer par 2 notre consommation de viande totale. Volaille inclus. Et du coup, ils préconisent d'avoir 450 grammes de viande par semaine, volaille inclus. Donc ça fait effectivement une division par 2 de notre consommation de viande. Et en fait, dans leur modélisation, ce qu'ils ont, ils sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait faire ça sans mettre en péril l'équilibre nutritionnel, voire même avoir un équilibre nutritionnel qui soit supérieur aux recommandations actuelles, mais surtout d'avoir un impact positif sur le climat. Et ça, c'est quoi, sur le climat, sur l'environnement au sens large même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important à considérer. C'est-à-dire, on fait pas, on se dit pas, on agit bien pour l'environnement et tant pis pour ma santé, ou j'agis bien pour ma santé et tant pis pour l'environnement. On a vraiment des recommandations qui peuvent nous permettre d'être à la fois meilleurs sur la santé et meilleurs sur l'environnement. Donc, allons-y, quoi.
Ok. Super intéressant, parce que ça va changer, nous aussi, nos prises en charge en tant que diète.
Oui.
Parce que forcément, si on se retrouve avec les recommandations à 450 grammes de viande, dont les volailles, ça va nous demander aussi forcément un petit peu de créativité dans ce qu'on va pouvoir proposer à nos patients.
Ça demande effectivement que l'accompagnement dans la végétalisation de l'alimentation soit bien fait. Et c'est là où effectivement, les diététiciennes, vous avez un rôle primordial là-dedans. On en reparlera, je pense, dans le podcast. Mais c'est vraiment important de garder ça en tête et d'accompagner cette transition qui est obligatoire, en sachant qu'on part de très loin. Il y a quand même, on parlait à un moment donné de la recommandation des 500 grammes de viande rouge par semaine. Il y a quasiment un tiers de la population en France qui dépasse déjà ce seuil-là. Ça veut dire quand même des changements qui peuvent être importants. Et ça, c'est un point que j'aime bien souligner aussi. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais j'interviens aussi dans le diplôme universitaire alimentation végétarienne Paris-Sorbonne, et j'ai l'opportunité de donner le premier cours un petit peu sur l'équilibre alimentaire. Mais ce que j'aime bien rappeler au départ, c'est que l'alimentation, c'est ce qu'on appelle un critère identitaire fort. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de nous. Donc on n'y touche pas sans précaution. C'est voilà, faut y aller doucement et considérer la personne qu'on a en face de nous. Et oui, quand on vient toucher à l'alimentation, on vient toucher à tout un tas de croyances qu'on a ancrées depuis longtemps, depuis notre enfance, qui nous ont parfois été transmises par nos parents. Faut savoir y aller avec une certaine douceur aussi, mais faut être clair dans les recommandations.
Ok. Et dans les nouvelles recommandations, au niveau des œufs, on nous parle de quelque chose ?
Non, pas particulièrement. Alors, ils en parlent quand même. Hein. C'est pas tous les jours, les œufs, clairement. Mais non, ils parlent un peu plus des produits laitiers. Ils ont modélisé, en fait, ils ont fait deux modèles, un avec deux produits laitiers par jour, l'autre avec trois, qui sont en lien avec les recommandations qu'on a actuellement sur les produits laitiers, mais en sachant que là, pour le coup, c'est plus d'un point de vue carbone. Les produits laitiers, ils ont plutôt des externalités négatives, en fait, au niveau du carbone. Ils pèsent lourd, en fait, dans la balance carbone, donc on aurait plutôt une tendance à les limiter un petit peu.
D'accord. Voilà. Parce que là, actuellement, on est entre 2 et 3.
Oui, 2 ou 3. Ouais. Donc là, on resterait un petit peu là-dessus. Okay. Après, les différentes modélisations, d'autres qui ont pu être faites, montraient plutôt une diminution, une tendance à diminuer un petit peu sur les produits laitiers. En sachant que là, effectivement, c'est des recommandations qui sont faites pour être équilibrées sans avoir recours à une supplémentation. Donc ça, c'est important aussi. L'alimentation apporte tous les nutriments nécessaires sans recours à d'autres externalités. Donc ça permet d'équilibrer un peu tout ça.
Okay. Et concrètement, dans les collectivités, dans les cantines scolaires, dans les EHPAD, est-ce que ça suit ?
Alors il y a beaucoup de choses. Alors c'est des situations un peu différentes. Alors je connais bien les cantines scolaires. J'ai fait partie pendant 2 ans du Conseil national de la restauration collective. Il y a du travail qui a été fait. Il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que le Conseil national de la restauration collective, le CNRC, a été mis en place pour développer en fait les menus végétariens dans les cantines scolaires. C'était en lien avec la loi. Alors d'abord la loi Egalim, puis la loi Climat Résilience, qui indique qu'il doit avoir une fois par semaine un repas végétarien. Mais la loi dit que, après, comment on l'applique sur le terrain, comment on forme les agents, comment on informe, et on voit qu'il y a eu beaucoup aussi de maladresse par rapport à ça. L'idée derrière étant pas de rendre les personnes végétariennes, ça sera un non-sens. Et de qualifier par exemple un plat végétarien, si ça permet de bien savoir nous ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, ça crée un peu de confusion, où on voit des fois des élèves qui nous disent ce menu-là, il est pas pour moi, je suis pas végétarien. Et pour contourner un petit peu ça, il y a des collectivités qui l'appellent le menu durable, par exemple.
Ah oui.
Ou le menu bon pour le climat, ou bon pour la planète. On change en fait la terminologie pour pas crisper les gens Parce qu'encore une fois, l'alimentation, c'est un facteur identitaire. Donc voilà, l'idée était vraiment pas de rendre les personnes végétariennes, mais de rentrer en fait dans un plan plus large de diversification des protéines. Ce que je disais un peu au départ, on s'est quand même rendu compte, et là, encore une fois, c'est vraiment un consensus large, qu'il faut qu'on augmente nos apports en protéines végétales. Ça, c'est un impondérable. Maintenant, comment, comment on les amène, comment on les rend disponibles aussi. Bah voilà, ça c'est tout l'enjeu effectivement, et il y a vraiment tout un accompagnement à faire dans la restauration scolaire. Les EHPAD, c'est encore une autre problématique. Alors on pourra peut-être reparler à un moment donné effectivement de l'alimentation des seniors, mais là aussi on a remarqué que la végétalisation de l'alimentation était plutôt bonne pour la santé. On se pose tout de suite la question des protéines, parce que c'est la grande crainte, hein, effectivement, sur les pertes en protéines. On se rend compte que les études qui ont été faites nous indiquent que il y a pas, c'est pas un grand risque. Ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'on ait besoin de faire plus de repas. C'est-à-dire que de proposer, par exemple, des collations, et là, c'est toute la magie des légumineuses, qui peuvent être servies aussi bien en plat salé qu'en plat sucré. Et faire des gâteaux à base de légumineuses, c'est aussi une manière d'apporter des protéines végétales. Donc il y a vraiment plein de choses à considérer. Après, il y a la restauration hospitalière qui doit aussi opérer un changement. Voilà, mais il y a vraiment plein de choses à... Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail.
Ok. Oui, on en reparlera.
Oui, on aura l'occasion.
L'alimentation pour les personnes âgées. Est-ce que tu as un petit peu en tête le nombre... pourcentage de personnes qui sont végétariennes en France?
Alors, c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis, parce que ça dépend déjà, on a remarqué qu'il y a une différence entre les personnes qui se déclarent végétariennes et les personnes qui mangent végétariennes. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs, hein, d'avoir une étude là-dessus sur qu'est-ce qui explique cet écart-là. Pour le moment, on peut que le constater. Mais grosso modo, on est à un peu moins de 5%, on va dire, de végétariens, dont environ 1% de végétaliens en France. Ouais. Ce qui nous place grosso modo dans les derniers pays en termes de pourcentage au niveau européen. En Allemagne, par exemple, ils sont plus du double. L'Italie aussi, en Angleterre. D'ailleurs, ça, c'est toujours une expérience intéressante quand on est végé au sens large et qu'on voyage dans les pays proches de la France, c'est de voir à quel point il y a plus d'options quand on va au restaurant. Et même quand on va dans les supermarchés, très rapidement, c'est étiqueté, en fait. Donc, parce que ça, c'est un peu le problème que rencontrent les personnes végétariennes ou végétaliennes, c'est de devoir lire, décrypter les étiquettes pour savoir s'il y a effectivement de la viande ou du poisson dedans. Et c'est vrai qu'on parlait à un moment donné d'un changement aussi de société. Il y a eu un changement plus global et de disponibilité, en fait, des offres. Mais ne serait-ce que pour végétaliser son alimentation. Il y a une étude qui avait été faite par le RAC, alors il y a à peu près un an, je dirais, où ils sont allés voir dans les grandes et moyennes surfaces la disponibilité des plats préparés qui étaient végés. Eh ben, c'est hyper compliqué. Ils ont trouvé qu'il y a plus de 90% des plats qui sont proposés qui contiennent de la viande et du poisson. Donc, c'est pas comme ça qu'on va permettre la végétalisation de l'alimentation. Encore une fois, hein, l'idée n'étant pas une végétalisation totale, quoi. Même si, alors, c'est une autre question. Mais au moins d'un point de vue recommandation, bah, faut faciliter la vie aux gens, quoi. On peut pas demander aux gens de végétaliser et ne pas leur permettre de le faire, quoi.
Et est-ce que ce nombre de personnes augmente? Est-ce qu'il y a de plus en plus de végés?
Alors, il y a deux choses qu'on observe. Déjà, c'est que le nombre augmente, et puis il y a aussi une pyramide des âges. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus parmi les adolescents, jeunes adultes, de personnes qui sont végés au sens large par rapport à la population vieillissante.
Est-ce que tu as une explication pour ça?
Alors, il y a plusieurs explications, hein, qui sont données. Alors déjà, il y a des enjeux, plus clairs pour la population qui... jeune adulte ou adolescente au niveau du climat, c'est-à-dire ça les inquiète beaucoup plus. Donc dès qu'on se renseigne un petit peu sur le climat, on voit bien qu'il faut agir sur notre alimentation. C'est quand même une part importante dans les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des enjeux de bien-être animal qui sont beaucoup plus importants aussi à ce niveau-là, et du coup, ben forcément ça. Et puis il y a aussi que c'est plus facile, c'est-à-dire être végé il y a 20 ans. Et maintenant, l'offre n'est pas du tout la même. L'offre est loin d'être la même. Et même dans les restaurants ou en grande surface, on trouve beaucoup plus de produits, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense qu'on a affaire à, effectivement, une population qui est plus sensibilisée et avec des produits plus disponibles. Donc forcément, on y arrive, quoi.
Ok. Est-ce que tu sais si, il y a 50 ans, on mangeait la même quantité de viande que maintenant?
Non, on en mangeait beaucoup moins.
On en mangeait beaucoup moins.
Beaucoup moins, beaucoup moins. En fait, alors, il y a une cinquantaine d'années, on mangeait à peu près deux fois moins de viande. C'est, on mangeait en fait les recommandations qu'on voudrait mettre en place actuellement. C'est un peu l'idée, quoi. Et on mangeait, par contre, beaucoup plus de légumineuses.
Mais les gens ne se déclaraient pas végétariens, alors c'est ça
Non. En fait, il y a deux choses vraiment différentes. Il y a le fait d'avoir une alimentation équilibrée en termes de protéines végétales et animales, ou diversifiée, où là, effectivement, on n'est pas végétarien, on n'est pas végétalien. À la limite, on pourrait dire qu'on est flexitarien. Parce qu'à l'heure actuelle, ça demande une volonté d'avoir une alimentation plus équilibrée dans les apports. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, effectivement, qui est, alors là, pour le coup, quelque chose, quelque part, qui a un lien avec, quoi, avec une, comment dire, avec une définition identitaire, hein, d'être végétarien ou végétalien. C'est deux choses différentes. On parle de vraiment deux situations différentes. Alors, moi, je sais que je fais notamment partie de l'Observatoire national des alimentations végétales. Et c'est ce qu'on aborde, en fait. C'est-à-dire que, on s'oriente vers deux choses. Il y a le consensus qui dit qu'on doit végétaliser notre alimentation. Ça, voilà, on peut en discuter, mais il faut y aller. Et il y a la possibilité de devenir végétarien et végétalien. Et c'est deux choses différentes, en fait, vraiment en termes d'accompagnement déjà, et puis en termes de demande. C'est vraiment deux choses différentes.
On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. On va parler des protéines, des protéines végétales en l'occurrence, donc c'est moins cher,
oui,
que la viande ou que le poisson, c'est plus riche en fibres, mm-hmm. Donc sur le papier, on peut dire, déjà rien que sur le papier, on peut dire que ça a tout bon. Est-ce que on peut remplacer 100 grammes de poulet, donc j'ai regardé l'équivalence, 100 grammes de poulet et environ 20 grammes de protéines, donc, est-ce qu'on peut remplacer 100 grammes de poulet par exemple, 210 grammes d'haricots rouges. Est-ce que ça va être équivalent sur le plan nutritionnel?
Alors, le remplacer, j'ai envie de dire, et pourquoi pas. Après, équivalent au niveau nutritionnel, c'est un peu ce que je disais au départ. C'est-à-dire que non, ce n'est pas strictement la même chose. voilà, il n'y aurait pas de débat quelque part. Mmh. Quoi. Mais au contraire, alors, c'est effectivement, il y a les forces et les limites. Les forces des légumineuses, ben, tu les as très bien données, hein, c'est les fibres. Une richesse en nutriments aussi, hein, en vitamine B notamment, sauf la B12 par exemple, ce qui va être la force de la viande par exemple, avec la vitamine B12, mais ça on en reparlera, c'est un sujet un petit peu à part et qui mérite qu'on s'y attarde. Donc en fait non, ça sera pas un remplacement équivalent. Alors déjà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au-delà de rééquilibrer nos apports en protéines, ce qu'on peut aussi faire, c'est diminuer nos apports en protéines. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, les recommandations sont de 0,83 grammes par kilo de poids corporel par jour de protéines. Ça, tu les maîtrises sans doute même mieux que moi. Et la consommation actuelle qu'on a en France, pour les personnes qui consomment de la viande, on est autour de 1,5 grammes par kilo par jour. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on peut diminuer un petit peu nos apports en protéines et rester quand même largement au-dessus de la zone dangereuse, entre guillemets, quoi. Donc ça fait partie notamment des recommandations de l'INRAE, qui disent qu'au-delà de rééquilibrer les apports, on peut aussi faire une diminution de 20% de nos apports en protéines, et tout le monde est gagnant, quoi. C'est, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, entre guillemets, ça coûte cher de produire de la protéine, donc on n'est peut-être pas obligé d'en consommer autant. Quand on regarde des populations spécifiques en France, les végétariens vont être à 1,3 g et les végétaliens à 1,2 g. Oui. Donc même quand on enlève totalement les produits animaux, on voit qu'on est suffisamment au-dessus des recommandations pour pas avoir de grandes inquiétudes. Je dis pas qu'il faut pas en avoir du tout, mais en tout cas dans les études, on retrouve pas d'inquiétude spécifique là-dessus, quoi. On a une inquiétude entre guillemets théorique, mais en pratique, ça se retrouve pas.
Ok. Alors, je vais me faire l'avocat du diable.
Vas-y.
moi, ce que je remarque beaucoup en consultation, c'est que les gens, mes patients, ont tendance à ne pas manger suffisamment de protéines. Mmh. Parce que, alors, les protéines créent la satiété.
Oui.
Donc, se retrouvent avec des petites quantités de protéines au repas et de trop grandes quantités de féculents.
Oui.
C'est quand même très souvent ce que je remarque. Alors moi, tu vois, ce que je leur donne comme conseil, c'est augmenter leur portion de protéines. Donc, où est le juste milieu? Parce que, donc, on sait que les recommandations entre 10 et 20%, c'est de protéines par jour, c'est du simple au double. Donc voilà, on a une grande variation, c'est très large. Comment on fait quand on a un patient qui souvent cherche à perdre du poids, on va pas se mentir quand même. En tout cas,
ça fait partie très souvent des demandes.
Voilà, la demande qu'on me fait. D'être dans le juste et dans le bon à tout point de vue. Donc, tu vois, moi, ce serait un peu ma problématique. C'est, OK, je veux que cette patiente soit en meilleure santé. Donc, souvent, ça passe par la perte de poids. Je veux pas qu'elle ait faim. Donc, je veux que la perte de poids se fasse de manière sans culpabilité, qu'elle se fasse de la meilleure manière possible. Hein. Mais à la fois, j'ai quand même dans ce coin de ma tête cet enjeu aussi environnemental, bien-être animal, tout ça. Comment on fait, quoi ? Est-ce que tu as des conseils, alors ?
Alors, je vais avoir des conseils assez généralistes. Alors, comme j'aime bien le préciser aussi, moi, pour le coup, je ne suis pas diététicien. Donc, c'est là où vous avez vraiment votre place. Vous avez un seul défaut qui n'est pas de votre faute, c'est que vous n'êtes pas remboursé par la Sécurité sociale.
Alors, ça, certaines mutuelles, c'est vrai.
Certaines mutuelles, voilà, on y arrive quand même, mais... Ça, je trouve que quand on voit l'intérêt de l'alimentation pour notre santé, que vous ne soyez pas remboursé par la Sécurité sociale, c'est pour moi un non-sens. Mais bon, je ne fais pas les lois, vous non plus. on va faire avec ce qu'on peut. Donc moi, je donne plutôt des conseils assez généralistes. Médecin généraliste.
Oui.
Alors, ce qu'on a remarqué, il y a une étude, une thèse... sur une étude qui a été faite là il y a quelques mois, justement sur les comment bien végétaliser son alimentation. Et ce qu'il remarque, et alors j'avais un petit biais de confirmation là-dessus, parce que son premier conseil était le premier conseil que je donne à mes patients, qui va être d'agir sur le pain. Ça a l'air bête comme ça, mais on mange beaucoup de pain en France et on mange beaucoup de pain blanc. Et en fait, le premier conseil que je donne déjà, c'est de passer au pain complet. Pourquoi je donne ce conseil là? Parce que on continue à faire la même chose, c'est-à-dire on se rend dans une boulangerie, on va acheter du pain. Jusqu'à là, on ne change pas beaucoup notre habitude. Simplement, au lieu de demander la baguette pain blanc, on demande le pain complet. Bon, a priori, quand j'en discute avec mes patients, ça leur semble atteignable. Ça, on le dit souvent dans les objectifs d'être ce qu'on appelle smart, spécifique. Faut qu'on puisse bien le mesurer, faut qu'on puisse y arriver, faut qu'il y ait une limite de temps.
Enfin voilà. Surmontable.
Voilà, c'est ça. Et ça marche. C'est pas qu'un acronyme. Ça fonctionne plutôt bien. Et effectivement, lui, c'est ce qu'il retrouve dans l'équilibre global. C'est effectivement commencer par manger du pain complet et par manger plus complet. Alors pareil, on pourra en reparler sur le semi-complet. Complet, c'est un changement d'habitude qui demande aussi un peu de changement. C'est pas le même goût en bouche, il y a plein de choses qui changent, c'est ça. Mais voilà, c'est le premier intérêt. Et après, alors ce qu'on montre déjà quand même, c'est que quand on végétalise notre alimentation, il y a une tendance à perdre un peu de poids. Donc l'objectif, j'aime pas trop le mettre en avant parce que c'est pas je considère que c'est pas un objectif en soi, mais c'est ce qu'on montre dans les études en tout cas, quoi. C'est que quand on végétalise, on a un impact positif sur le poids.
Et comment ça s'explique, tu penses?
Alors ça s'explique sur plusieurs choses. Alors déjà l'augmentation des fibres. Une grosse carence dont on parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on vient nous voir sur plein de trucs carencés, par contre les fibres on en parle plus. Qu'alors on est largement en dessous des recommandations, mais très très largement, et qu'alors on a montré que c'est un impact sur la santé qui est vraiment très important, Donc effectivement, à partir du moment où on va venir apporter plus de fibres, ce qui est un peu là où ça devient compliqué des fois quand on parle des glucides, parle de quels glucides, c'est pas aussi simple que ça, quoi. On peut pas voir que la valeur sur le papier, quoi. Il y a d'autres choses à regarder, et effectivement les fibres alimentaires sur le microbiote notamment, sur la satiété, il y a plein de bienfaits au niveau des fibres. Donc déjà le fait d'augmenter les fibres, ça permet quand même d'apporter d'autres choses. Et après la viande, notamment la viande rouge, il y a plein d'acides gras saturés, donc pareil, quoi, d'agir là-dessus, on se rend compte qu'on joue quand même sur un équilibre plus large en fait que simplement les étiquettes, et c'est ça qui permet d'avoir à la fin une alimentation qui est plus saine.
Est-ce que tu penses que ça peut aussi être la conscience, peut-être, de se dire tiens, je soigne un petit peu mon alimentation, et en même temps on évite peut-être certaines choses, je vais mentionner peut-être certains biscuits apéritifs, certains petits biscuits qu'on pouvait manger, enfin tu sais, peut-être cette conscience de de s'améliorer, entre guillemets. Est-ce que ça, ça peut jouer aussi?
Alors, ça peut jouer aussi. On sait très bien, ça l'a montré, la manière dont on mange, le temps qu'on a... Alors, tout dépend pas de nous, hein. C'est ça où faut pas rentrer dans une culpabilisation là-dessus, quoi. On fait comme on peut la plupart du temps. Mais on sait très bien que si on a le temps de manger, de faire attention à ce qu'on mange, de mastiquer, alors pareil, les produits, à mastiquer, c'est toujours un peu mieux. On arrive en fait à des solutions qui sont plus saines, tout simplement. C'est vrai que nous, on a mis aussi, on l'a mis sur notre site, hein, de l'ONAV, dix bons préceptes pour végétaliser son alimentation. Il y a des choses qui peuvent nous aider en fait, et notamment effectivement d'avoir une alimentation plus diversifiée, d'avoir des ce qu'on appelle le plat de dépannage, quoi. C'est-à-dire il y a des jours, on rentre, on a une longue journée, on n'a pas envie de réfléchir encore pendant une demi-heure à qu'est-ce que je vais préparer à manger, et d'avoir une recette toute prête, un truc où on se dit là, quand j'ai pas envie, je fais ça. Alors moi personnellement, par exemple, ça va être du tofu épinard pâte. Moi j'aime bien, mes enfants aiment bien, ça me prend pas longtemps à préparer, j'ai pas besoin d'y réfléchir, je sais que tout le monde va être content autour de la table, banco quoi. Mmh. Et c'est bien d'avoir ces petites recettes un peu rapides ou des végétaliser des recettes qu'on aime bien. Il y a le chili sin carne par exemple, donc le chili sans viande, et de réfléchir comme ça en fait à comment on peut garder le plaisir de manger mais simplement le végétaliser.
On va mettre les pieds dans le plat aussi, parce que c'est une idée qui est très largement répandue, en tout cas dans la communauté diète. Les protéines végétales, c'est bien, mais on les assimile moins bien que les protéines animales.
Tout à fait.
Est-ce que c'est vrai?
Presque.
Ah. Allez, explique-nous.
Alors, oui, il y a beaucoup d'idées reçues sur les protéines végétales, et c'est là aussi où il y aurait vraiment des changements à faire. De perception en fait. Alors j'aime bien, il y a une étude qui a été faite par le docteur Katz sur effectivement un changement de paradigme. Il a été rejoint par d'autres chercheurs. On a dit pendant longtemps qu'une protéine de qualité serait une protéine dont les acides aminés seraient biodisponibles, c'est ça qui ferait la protéine de qualité. Lui, il met en avant qu'une protéine qu'on devrait changer de paradigme. Pourquoi? Pour un premier point, parce que les protéines de qualité, on en trouve aussi dans les végétaux. Alors, je parlais du soja notamment, mais il y a d'autres protéines qui sont tout à fait aussi bien assimilables, ou alors un tout petit peu moins, mais ça se joue à quelques pourcents. En fait, pendant longtemps, on a considéré la biodisponibilité des acides aminés contenus dans les protéines, d'abord sur des modèles in vitro, et puis après sur des modèles animaux non humains, et notamment des porcs. Et on s'est aperçu que quand finalement on passait à des modèles humains, ça ressemblait plus du tout à ce qu'on avait mesuré. Et qu'en fait, l'écart entre les protéines, notamment les légumineuses et la viande, elle se joue à quelques pourcents, quoi. Ouais. Et à l'heure actuelle, où il faut dire ce qui est, on est quand même dans un pays où on n'est pas en pénurie alimentaire. Comme je vous disais, on mange jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel pour 0,83 demandé. On peut se permettre 2 à 3% qui soient pas aussi bien assimilables sans souci. Mmh. Et ce que propose du coup ce chercheur, c'est de définir une protéine de bonne qualité comme étant bonne pour la santé et bonne pour l'environnement. Et auquel cas, en fait, une protéine de bonne qualité, c'est une protéine végétale. Okay. Il y a vraiment une invitation à changer de regard là-dessus, en sachant qu'on a beaucoup appris sur les protéines aussi. Alors, c'est toujours étonnant. Par exemple, on parle de la complémentarité des protéines.
Ouais,
allez venir. J'avance un petit peu. Ouais. Mais on a dit pendant longtemps, et on le voit encore de temps en temps écrit, hein, ça reste de dire oui, alors faudrait associer les protéines des céréales et des légumineuses.
Ouais. Pour avoir les acides aminés.
Parce qu'il y aurait des acides aminés limitants qui seraient la lysine dans le cas des céréales, la méthionine dans le cas des légumineuses. Et en fait, non.
Mais ça, on l'apprend dans le BTS diète.
Ouais, je sais, on m'a encore envoyé des des screens, des cours.
Ouais.
En fait, non, ce qu'on se rend compte, c'est que... c'est pas que c'est faux, mais c'est que dans l'absolu, cette histoire de complémentarité des protéines, elle a été introduite en observant un seul aliment. Ça veut dire qu'on mangerait lors du repas un seul aliment. Et ça n'arrive jamais, quoi.
Ouais.
Et effectivement, oui, si on consomme que du riz, matin, midi et soir pendant des semaines, il y a un moment donné où ça va poser problème pour les apports en certains acides aminés. Mais c'est pas le cas pour la grande, grande majorité d'entre nous. Et il faut savoir que des protéines, en fait, il y en a partout, à part dans l'huile et le sucre. Mais sinon, on en a partout. Donc déjà, les apports en protéines, on peut pas regarder un seul aliment. Ça a pas de sens dans la vie réelle, en fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a une réserve d'acides aminés circulant. C'est-à-dire qu'on peut compenser si lors d'un repas, il y a un peu moins d'un acide aminé. Alors souvent c'est la lysine qui sera un peu déficitaire potentiellement dans les repas, et à partir de ce moment-là, bah en fait on comble, et puis le repas d'après il apportera d'autres choses, et puis on refera les stocks, et voilà quoi, on est quand même adaptable, heureusement pour nous d'ailleurs. Oui. C'est voilà, c'est important de considérer tout ça. Alors c'est pas faux non plus, et ça se fait, on va dire, relativement naturellement, c'est-à-dire que bah, par exemple haricots rouges et riz. Bon, bah, c'est une association qui se fait assez...
Semoule pois chiche.
Oui, ou semoule pois chiche. Bah, voilà, on va se retrouver sur des plats qui, assez naturellement, finalement, vont comprendre des légumineuses et des céréales. Mais c'est juste de dire qu'en soi, c'est pas une obligation. D'ailleurs, si on regarde vraiment précisément, vaut mieux augmenter la quantité de légumineuses qu'on consomme que d'associer légumineuses et céréales. À calories équivalent, les légumineuses sont beaucoup plus riches, en fait. Donc, et puis, ils sont des acides aminés pour le coup plus assimilables. Donc, du coup, voilà, si on voulait vraiment... Mais voilà, ça n'enlève rien. On peut continuer à faire des associations. Hein, c'est pas... Mmh. Encore une fois, gustativement, ça a du sens, hein, moi, je trouve, en tout cas. Mais faut pas l'avoir comme une obligation, en fait. C'est plus là-dessus qu'on... On essaye un petit peu de, sans se battre trop, parce qu'encore une fois, c'est pas essentiel, mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Et non, il n'y a pas une obligation d'associer les deux.
Eh ben, tu vois, c'est intéressant de le dire, parce que je pense que les diététiciens qui nous écoutent, peut-être pas tous, mais la plupart, c'est très important, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on nous apprend, en fait.
Oui, mais on le voit encore sur les textes.
En fait, il faut se détendre, quoi. C'est pas très grave si au cours d'un repas, on n'a pas associé, on est un peu limité, voilà, et on se rattrape sur le soir. En fait, c'est comme ça dans la nutrition en règle générale. Donc, les protéines végétales font pas exception.
Non, c'est ça.
Si on n'a pas mangé nos deux fruits, on n'a pas mangé un fruit le matin, un fruit le midi, ben on peut manger son fruit le soir. Enfin, tout ira bien, quoi. C'est pas, il y a pas une histoire de moment particulier ou ce genre de choses. Donc, oui, effectivement, si on n'a pas associé semoule, pois chiche le midi.
Oui.
On se rattrapera sur quelque chose.
C'est ça. C'est pas. Et puis, il y aura d'autres choses dans le repas aussi. Hein. Aussi ouais. Je veux dire, haricots rouges pain. Enfin, je sais.
Mais, pas complet.
Complet, c'est ça.
Ok, et ben tu vois, très intéressant. Alors j'allais te poser une question, mais on y a un petit peu répondu. Mais, tu vois, je te disais, moi j'allais dire, est-ce que ça va pas provoquer un déséquilibre énergétique? Parce que bon, moi j'étais restée un peu théorique en disant 100 grammes de poulet c'est 110 calories, 200 grammes d'haricots rouges, donc pour avoir 20 grammes de protéines, on n'est pas sur 110 calories, mais on est sur 240. Mmh. Alors, est-ce que ça va pas créer un déséquilibre? Mais en fait, tu as dit...
A priori, non.
A priori.
A priori, en tout cas, dans les études, au contraire, on voit plutôt, comme je disais, une perte de poids, donc ce serait lié quand même aux apports en calories, même si le poids est beaucoup plus complexe que simplement les calories. Voilà, a priori, ça pose pas de soucis, quoi.
OK. Allez, on va y aller aussi, parce que c'est un grand sujet. Le soja. Le soja, il faut quand même dire qu'on entend beaucoup de choses sur le soja.
Oui, on entend beaucoup de choses concernant le soja. Alors moi, ça a été un des premiers sujets que j'ai traité, parce qu'il m'a beaucoup interrogé aussi, et parce que ce que je disais correspondait pas à mes connaissances de la littérature. Et je me suis rendu compte aussi que la France en était un peu isolée sur le sujet. Alors, il faut savoir qu'en France, on a des recommandations sur le soja qui datent de 2005. Okay. Donc, voilà, tout est dit. Un peu la préhistoire, entre guillemets, ouais. Quand on se met d'un point de vue nutritionnel. Et en fait, sur ce rapport, où il y a beaucoup de mise en garde, mais surtout sur un principe de précaution. Et on dit, on ne sait pas, les études in vitro, les études sur les animaux, alors là, c'était plutôt les rats, pour le coup, pour le soja, montrent que peut-être il y aurait un problème au niveau hormonal, parce que le soja contient, alors, ce que certains appellent les phytoestrogènes, ce que je préfère appeler les phytocermes, ce qui est un acronyme pour dire que c'est un peu plus, ça ne fait pas seulement mimer, en fait, les oestrogènes, mais ça a un impact, effectivement, sur, ça a une similarité de structure, et, mais qui est un peu différent. Et puis, à l'oreille, je trouve que ça véhicule moins d'idées reçues. Quand on entend phytoestrogène, on n'a que le mot oestrogène en tête.
Non, tout à fait.
Et c'est pas, ça rend pas compte de la réalité, quoi. La chance qu'on a sur le soja, c'est que on en consomme depuis longtemps. Alors c'est pas pour faire un appel à l'ancienneté, hein, on a fait des choses pendant hyper longtemps qui étaient des mauvaises idées. En médecine, on peut parler de la saignée, hein, on a soigné ça pendant des siècles. Et non, c'était pas une bonne idée. Bon, voilà, donc c'est pas, mais c'est pour dire qu'on a du recul. Ouais. Et c'est ça qui est important, en fait. Et quand on prend du coup des études qui ont maintenant avec des suivis de plusieurs dizaines d'années. Parce que le soja est venu en Europe, parce que c'est consommé depuis des millénaires en Asie, mais en Europe depuis vraiment les années 70, c'est devenu plus, voilà, vraiment présent dans les marchés, on va dire, et dans l'alimentation des Européens. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, où il se passe pas grand-chose d'autre, ou au contraire, c'est bénéfique pour la santé. Après, le bénéfice sur la santé, il y a deux aspects qui sont mis en place. La première, qui est la qualité nutritionnelle propre du soja. C'est-à-dire, le soja, c'est une protéine de qualité. Alors là, quel qu'on soit l'angle sous lequel on regarde, à la fois de biodisponibilité ou d'environnement, et sur la santé. Mais également, avec des fibres, avec des nutriments intéressants. Mais aussi, qu'est-ce qu'on remplace? C'est-à-dire, quand on mange du soja, qu'est-ce qu'on n'a pas mangé à la place? Eh bien, si ça nous permet de diminuer notre consommation de viande, clairement, ça va avoir un impact positif sur la santé. Dans les inquiétudes qu'on a eues sur le soja, on a vraiment eu des suivis au niveau hormonal, que ce soit chez les femmes enceintes. On s'est intéressé aux nouveau-nés, aux bébés, aux adolescents. Une des craintes, c'était une puberté précoce, par exemple. On s'est intéressé au cancer, dont les cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Et là-dessus, tous les organismes internationaux sont clairs, ils disent qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que dès qu'on enlève la focalisation de la France, tous les pays où j'ai pu trouver des recommandations sur le soja étaient plutôt positifs, en fait. Pour donner une idée, le soja est conseillé, par exemple, dans le guide alimentaire canadien. Donc le Canada, hein, c'est pas non plus... voilà, je pense que c'est un pays assez proche d'une autre. Et eux, ils recommandent la consommation de soja pendant la grossesse et dès la diversification. Pareil dans le guide australien.
Okay.
Alors ça, c'était aussi une petite particularité qu'on avait en France jusqu'à encore récemment sur la diversité, la diversification alimentaire de l'enfant. On disait les légumineuses, fallait les inclure hyper tard. Et maintenant, en fait, on s'est mis au diapason des recommandations internationales qui sont que dès la diversification, on peut introduire des légumineuses. Alors, tout un sujet encore, on en reparlera plus loin quand on aborde les enfants. Mais voilà, c'est pour dire que vraiment, détendons-nous avec le soja. Alors après, ce qu'ont montré les études, c'est jusqu'à qu'il n'y a pas de risque pour la santé, voire des bénéfices. Donc je parlais notamment du cancer du sein, on a montré que notamment une consommation dans l'enfance du soja, on observait moins de cancer du sein à l'âge adulte. Alors après, il faut faire attention, les études observationnelles ne suffisent pas à donner une causalité, mais ça montre qu'en tout cas, a priori, il n'y a pas une explosion de cancer du sein chez les personnes qui consomment du soja bien au-delà. Au niveau des portions, les études ont montré jusqu'à 4 portions par jour, ce qui fait quand même beaucoup. Et en sachant, ça veut dire qu'au-delà, c'est pas que c'est dangereux, c'est qu'on ne sait pas. C'est deux choses différentes. Et là où aussi tous les chercheurs dans le domaine sont clairs, c'est de dire 4 portions par jour déjà, il y a un moment donné où il y a un problème de diversification.
C'est ce que j'allais dire, évidemment.
C'est ça. Oui. Il n'y a aucun aliment où on va dire qu'il faut en manger plus de 4 fois par jour. Non.
Fait, on peut vraiment se détendre.
On peut vraiment se détendre. Après, et j'aime bien le dire aussi, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire à un moment donné, les gens ont le droit de ne pas aimer. Soyons clairs. Alors j'ai une tendance à penser quand on n'aime pas le soja, c'est qu'on l'a mal préparé. Mais ça, c'est un avis personnel, parce qu'on peut arriver à trouver une texture et un goût. Il prend facilement le goût du reste, donc je pense qu'on peut y arriver. Mais c'est pas une obligation. Il faut pas non plus se mettre encore une fois. Et vraiment en nutrition, je trouve ça important. Faut pas se culpabiliser. Faut pas se mettre des injonctions. On n'aime pas le soja, Point barre, quoi. Mais si on l'aime. Il n'y a pas de raison de se limiter vraiment, quoi.
Pour diversifier, c'est ce que je me dis, tu vois, quand j'entends 4 fois par jour.
Le problème, c'est pas le soja, en fait. Le problème, c'est la diversification de l'alimentation, quoi. C'est important d'avoir une alimentation diversifiée, même si, Cette phrase, j'aime bien la reprendre des fois un petit peu, parce qu'on dit oui, faut une alimentation diversifiée. Mais ce qui est une phrase qui veut pas dire grand chose au final. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près, ben oui, mais non. C'est-à-dire, faut la diversifier avec des aliments sains.
Okay.
C'est ça. On peut manger 15 types de chips, 3 types de gâteaux différents. ça sera pas diversifié d'une bonne manière. Quoi.
Ouais, tout à fait. Ok, ben écoute. Super intéressant, encore. Si on prend un petit peu par type de population, si on parle protéines, moi, bien sûr, ce qui me vient tout de suite, c'est sportif.
Oui.
Est-ce qu'on peut être sportif ? Et encore, dans les sportifs, on peut faire différentes catégories encore. Donc,
c'est ça.
Allez, on va prendre la catégorie des sportifs qui font de la muscu, dans l'idée de prendre de la masse musculaire. Est-ce qu'ils peuvent être végétariens et, par exemple, enfin... Si on va plus loin, végétalien. Prendre du muscle.
On peut tout à fait. Ça, c'est la première réponse un peu brute, on va dire. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a toujours un mais. Faut être accompagné, à mon avis.
C'est ce que j'allais dire.
Ou avoir au moins des bonnes connaissances. En fait, la difficulté à laquelle on va se heurter, c'est une difficulté d'habitude, déjà. C'est-à-dire que la population, la société n'étant pas végé, la majorité, les offres et nos habitudes sont calquées sur une consommation de viande. Donc du coup, dès qu'on la supprime, voilà, dès qu'on se rajoute des choses, des contraintes entre guillemets, et pour la muscu, ça va être effectivement des contraintes au niveau des protéines notamment, de fait, ça va demander des adaptations supérieures. Le premier point, alors c'est intéressant que tu me poses la question, j'ai participé dans le public à un débat la semaine dernière sur Paris, qui était est-ce qu'on peut gagner des médailles aux Jeux Olympiques en étant végé ? Et du coup, ils venaient intervenir des chercheurs et ils faisaient aussi intervenir un judoka végé.
Végétarien ?
Végétarien, pour végétarien, le coup, lui. Ouais. Et lui, ce qu'il disait déjà, alors le premier point, c'est la motivation. C'est-à-dire, tout est plus facile quand on est motivé. Ça a l'air comme ça d'être assez trivial, mais c'est important à considérer, effectivement, parce qu'il y a quand même des étapes à franchir. Et là où tout le monde était d'accord, la première étape, avant même de parler des protéines, c'est les calories. C'est-à-dire que quand on augmente notre effort musculaire, ce que le muscle a besoin, oui, il a besoin de protéines, on est d'accord, mais il a besoin de calories. Tout simplement parce que déjà, s'il n'y a pas cette calorie, il va aller brûler des protéines. Donc voilà, déjà, si on veut être bien, donc c'est déjà comment on va calculer nos apports en calories. Et après, généralement, alors pour la population, pour gagner vraiment de la masse musculaire et du coup d'avoir quand même pas mal de protéines, ça va demander quand même qu'à chaque repas, il y ait ou des protéines type légumineuses. Là, ça va devenir important. Et puis, il existe... comme pour les personnes qui ne sont pas végées et qui prennent de la protéine en poudre, ça existe aussi pour des protéines végétales en poudre. Après, c'est poser la question effectivement des supplémentations. Dans ces populations-là, ce que montrent les études, c'est que... Alors, déjà, encore plus que pour la population générale, il faut avoir une alimentation équilibrée. C'est d'autant plus vrai. Plus on est exigeant avec notre corps, plus on doit être carré dans l'alimentation. Et après, dans la supplémentation, il y a la créatine qui a montré peut-être un bénéfice. Mais là, encore une fois, toute alimentation confondue. Et on parle des fois un peu de la bêta-alanine. Voilà. Mais c'est vraiment des peut-être. Et c'est très spécifique, mais je peux que recommander aux personnes qui souhaitent être végé et avoir des pratiques particulières ou exigeantes d'être accompagnées par une diététicienne qui est formée sur le sujet. C'est, je pense, vraiment une plus-value pour éviter les écueils, effectivement.
Ok. Je pense qu'on peut y venir là tout de suite. On va parler de la supplémentation parce que c'est intéressant et que forcément, on y pense quand on parle alimentation végétale. T'as parlé de la B12 tout à l'heure.
C'est vraiment là. Ouais.
Donc ça, c'est pour les végétaliens. Les végétariens, on n'en a pas besoin. Peut-être.
Alors, pour la B12, effectivement, déjà, ce qu'il faut être clair, c'est que la B12 assimilable, utilisable par l'organisme, on la trouve que dans les produits animaux. Ça, faut être clair là-dessus. On en trouve un petit peu dans les algues, alors où elle est pas assimilable. Des fois, on en trouve un peu de l'assimilable, mais c'est pas fiable. soyons clairs, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas du tout fiable. Donc, ou on consomme des produits animaux et en quantité suffisante, et ça, j'y reviendrai, ou effectivement, faut aller vers une supplémentation. Le gros avantage qu'on a sur la vitamine B12, c'est qu'il n'y a pas de risque connu, on n'est jamais à l'abri, mais connu de surdosage.
Ah oui.
Et ça, notamment, l'agence européenne, le FSA, le dit bien, dit non, il n'y a pas de risque, on peut en prendre beaucoup, et on n'a pas observé, en tout cas, d'effets secondaires qui seraient problématiques. Donc déjà, ça nous détend un peu là-dessus. C'est pas le cas de toutes les vitamines. Mmh. Il y a beaucoup de vitamines où on dit attention, voire même des études qui montrent que parfois se supplémenter en certaines vitamines, notamment quand on en a pas besoin, bah, ça nuit même à la santé. On est souvent prudent quand même dans les conseils de supplémentation. Mais sur la B12, du coup, on a une tendance à être plus pareil, à pêcher par excès peut-être. Mais c'est préférable d'être en excès que d'être en carence sur la B12. Donc les végétaliens, ça c'est clair. De fait, il n'y a pas d'apport de produits animaux. Donc on ne voit pas comment ils pourraient avoir de la B12. Pour les végétariens, ce qu'on se rend compte quand même dans la majorité des études, c'est qu'il y a quand même une bonne partie des végétariens qui manquent de B12.
Oui.
Donc nous, notre conseil, c'est vous êtes végétarien, supplémentez-vous en B12.
Ça, oui. Sans prise de sang ?
Sans prise de sang.
Ah ouais.
Alors, je reviendrai sur la prise de sang sur la B12 parce que, encore une fois, il n'y a pas de risque.
Ouais, comme tu, ouais, je comprends.
Et du coup,
ouais.
Et le problème, en fait, d'une carence en B12, c'est qu'elle va être des fois un peu dure à identifier. Et puis, des fois, on ne va pas y penser tout de suite. En fait, les signes cliniques d'une carence en B12, ça peut être la fatigue. Mais ça nous arrive tous d'être un peu fatigués. Ça peut être des fourmillements par moment. Ça peut être des sensations un peu au niveau du goût ou autre. Enfin, c'est des signes cliniques qui ne sont pas hyper clairs. Et puis, ça peut être plein d'autres trucs que la B12. Donc, penser à la B12, c'est pas évident, quoi. Pour venir sur la prise de sang, l'un des défauts qu'on a, mais qui s'entend, on va dire, dans notre formation médicale, c'est qu'on est formé au plus probable. La B12, elle sert à plein de choses, et notamment la formation des globules rouges. Il y a une autre vitamine qui sert à la formation de la globule rouge, c'est la B9. La population générale est carencée ou limite en B9. Ça, on le retrouve dans les études. C'est pour ça qu'on conseille d'ailleurs aux femmes enceintes de se supplémenter en B9, si possible avant la conception, mais au moins le premier trimestre. Et sauf que les personnes végétariennes consomment plus d'aliments qui ont de la vitamine B9, donc ont moins de carences en B9. Et on va dire, l'une compense un petit peu l'autre dans la formation des globules rouges. Et nous, du coup, le premier signe qu'on va chercher sur une prise de sang de carence en B12, c'est d'avoir des gros globules rouges. Sauf que comme les populations végées consomment plus de B9, compense un petit peu, donc ce premier signe, il n'est pas toujours là sur les prises de sang. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le dosage de la vitamine B12 dans le sang, en fait, il comporte une zone grise qui est assez large. C'est-à-dire, quand on est carencé en vitamine B12 dans le sang, on est sûr qu'il y a une carence. Si on a vraiment beaucoup de vitamine B12 dans le sang, on est quand même assez confiant sur le fait qu'il n'y ait pas de carence. Mais il y a toute une zone où, en fait, on ne sait pas vraiment si on est en carence ou pas. C'est pas très spécifique, encore une fois, pour la carence en B12. Et ce qu'il faudrait faire, mais qui est moins connu, c'est de rechercher dans les urines l'acide méthylmalonique. Alors déjà, il faut se rappeler du nom. Et qui permet, effectivement, de voir s'il l'a d'une manière plus fine, s'il y a une carence ou pas en B12. Le problème, c'est que c'est un examen qui est fait plus rarement,
oui,
qu'on apprend déjà pas forcément dans nos études. Et comme il est fait plus rarement, on met souvent 3 à 4 semaines à avoir les résultats.
Oui. Donc je comprends ce que tu disais dans la supplémentation en B12. En fait, c'est plus simple finalement de...
C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de risque de surdosage.
Mais oui.
Ça peut coûter...
J'allais te demander, justement.
Ouais. Si on prend la forme la moins chère, c'est 2 euros l'année.
Donc, 2 euros l'année.
L'année, oui. Si on prend la forme la moins chère. Ça peut monter un peu plus sous d'autres formes, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ça vaut bien le coup?
Parce qu'on prend une fois dans l'année, la B12?
Non. Il y a plusieurs rythmes pour la B12. On peut, ça dépend des personnes, et j'aime bien, du coup, permettre aux gens d'avoir le choix. Il y a des personnes, ils prennent la B12 de manière quotidienne. Comme
ouais,
ça, ils y pensent tous les jours.
Ouais.
Donc ça, c'est plutôt un petit dosage qu'on prend tous les jours. Mais après, on peut prendre une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours.
OK.
Et on peut même arriver à une fois par mois. Ça dépend comment. Bon, voilà. Il y a différentes manières. En fait, il faut savoir que la B12 a deux types d'absorption. une absorption qui est très efficace, mais qui est très vite limitée, avec des récepteurs spécifiques sur la B12, mais d'une complexité, j'allais dire sans nom, mais si, quoi. Mais disons, faut, ça se lit déjà dans la salive. Après, ça se lit au facteur intrinsèque, parce que donc ça passe dans l'estomac, et après, c'est absorbé. C'est très compliqué, mais ça marche très bien. Mais par contre, très rapidement, on l'absorbe plus. C'est pour ça qu'on peut prendre une petite dose par jour, ça suffit. Par contre, dès qu'on prend une grande dose, là, c'est plutôt le deuxième mécanisme qui est une diffusion en fait de la B12 de l'intestin au sang, et là, qui fonctionne très mal, en fait. On absorbe que de cette manière-là à peu près 1% de la B12 qu'on prend. Donc c'est pour ça que quand on prend en quotidien, on conseille 25. Et quand on prend une fois par semaine, ben c'est pas 7 fois 25, hein. On monte à 2000.
Ah oui. Toi, tu conseillerais un petit peu tous les jours ?
En fonction des gens. Je vais prendre un exemple.
De la rigueur, tu veux dire ?
Oui.
Ah, voilà.
Je vais prendre un exemple personnel. Moi, si je dois prendre un truc tous les 15 jours, ça va être tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines, puis tous les 2 mois, je vais finir par l'oublier.
Ouais. La clairement, rigueur et la discipline, ça t'aide en disant il faut que je le prenne tous les jours, c'est comme ça.
Oui, je le prends tous les. Et puis c'est surtout que, encore une fois, détendons-nous, hein. Quand je l'oublie, c'est pas grave.
Ouais.
Quoi, je veux dire, on peut oublier une semaine. Encore une fois, hein, c'est pas un fil à la patte. Hein. On part en vacances 3 semaines. Mmh. On a des stocks de B12 à peu près pour 2-3 ans.
D'accord.
Quand on mange régulièrement des produits animaux ou quand on prend régulièrement de la B12 en complément. Donc, on a oublié notre B12, on part 3 semaines. Quelle heure on a l'habitude de la prendre tous les jours. Et c'est pas grave. C'est pas... Voilà. Après, si vraiment on veut mettre ceinture, bretelle, une fois par an, on fait ce qu'on appelle une cure d'attaque. On prend beaucoup de B12 tous les jours pendant 2 mois, 1 mois ou 2 semaines en fonction de la dose qu'on prend. Voilà, c'est possible. Mais je crois qu'il faut aussi se détendre sur la B12. Hein. Faut pas non plus que ça devienne un truc anxiogène.
Ouais.
Évitons vraiment ça. Encore une fois, on a des stocks, on a... Voilà, c'est...
Donc la carence en B12, on l'observe pas chez les végétaliens, on va dire les 2 premières années de leur changement alimentaire.
Et ça dépend. Et c'est pour ça que nous, même, on va plus loin. On conseille aux gens de se supplémenter en B12 dès qu'ils diminuent leur consommation. Pourquoi on dit ça ? Parce que déjà, au bout d'un moment, on arrive à des comptes d'apothicaire. C'est-à-dire à se dire, alors là, cette semaine, qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé 3 fois de la viande. Est-ce que ça me suffit pour avoir ma B12 ? Enfin, je trouve qu'on rentre dans des comptes à partir du moment qu'on diminue. Et puis, c'est surtout qu'on ne sait jamais où on va s'arrêter. C'est-à-dire, on diminue, mais jusqu'où ? Ça, c'est un autre point. Et ce qu'on remarque sur les populations qui deviennent végétariennes ou végétaliennes, c'est que souvent, ils n'avaient déjà pas une consommation excessive avant. Et donc, souvent, ils arrivent déjà avec des stocks qui sont assez limités. Et puis, comme je disais, les signes cliniques, c'est compliqué de les voir arriver. Donc, est-ce que ça vaut la peine de les voir arriver ou pas ? Surtout que, et c'est là où ça peut être un peu dramatique, la carence en B12, donc je parlais de la formation des globules rouges, mais ça joue aussi sur tout ce qui va être formation au niveau des nerfs, la gaine de myéline notamment. Et c'est pour ça que ça explique les fourmillements qu'on peut avoir et tout. Le problème des atteintes nerveuses, c'est qu'on n'est pas sûr de récupérer derrière.
Oui.
Donc est-ce que ça vaut bien le coup de jouer avec le feu pour une raison, voilà. Je suis pas sûr. Moi, en tout cas, je le déconseillerais. Et c'est pour ça que on a une tendance à prôner la B12 un peu de manière en excès. C'est histoire d'être tranquille. Mmh. Après, comme dit souvent dans l'alimentation, il y a la bonne alimentation, l'alimentation optimale. Bah, pour les abords à B12, c'est un peu pareil, quoi. Des fois, on peut être un peu limite. Essayons d'être optimal. Pourquoi pas, quoi. Ça peut, ça peut avoir sens, en tout cas.
C'est le médecin traitant qui doit faire des ordonnances pour la B12 ou ça se trouve...
Alors, il y a la théorie et la pratique. En théorie, oui. Alors, il y a des produits, il y a de la B12 en pharmacie, sur prescription médicale, sauf que l'autorisation de mise sur le marché est assez claire et donc n'est remboursée qu'en cas d'anémie, donc de manque de globules rouges par carence en B12. C'est pas forcément l'indication première. Et là, pour le coup, en plus, elle va coûter un peu plus cher. On n'est pas remboursé à 100% hein, sur la B12. Donc, le reste à charge peut coûter plus cher finalement que l'acheter. J'ai envie de dire la plupart des magasins bio. parce qu'ils vendent souvent des compléments alimentaires un peu trop à mon goût. C'est pour ça que j'aime pas trop. Oui, voilà, je suis pas non plus comment dire. Les compléments alimentaires pour moi c'est pas non plus la panacée. Mmh. Et loin de là. Là pour la B12 il y a du sens, mais voilà, souvent on en trouve quand même maintenant assez facilement. Et qu'il soit de qualité, quoi, de bonne qualité.
Sans
quoi.
Forcément une prescription.
Sans forcément ouais. Une prescription, ouais, c'est ça.
C'est bien qu'on soit tous les deux parce que, tu vois, j'imagine des situations avec mes patients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, Justine, je veux végétaliser mon assiette, etc. Donc maintenant, moi, je sais, c'est B12 directement. Mais dis-moi, toi, en tant que médecin généraliste, c'est parce que la personne qui veut végétaliser son assiette, elle ne sera pas forcément allée chez son médecin avant pour lui faire part de son choix. Mmh. Ça peut arriver, comme j'imagine que je sais pas, si tu as beaucoup de patients qui viennent. Bon, peut-être que toi, ils savent que.
Alors, ils ne savent pas forcément ma position sur le sujet, même si maintenant certains me googlisent, c'est rigolo. Ça amène la conversation, mais j'amène souvent la conversation sur l'alimentation.
Ouais.
Alors, je le fais pour deux raisons. La première, quoi, pour même plus de raisons, mais la première parce que je pense que c'est important pour la santé, clairement. Ça c'est le premier point, et la deuxième parce que ça me permet aussi d'engager la conversation avec des personnes qui me l'auraient pas forcément dit qu'ils étaient végétariens ou végétaliens. Alors moi, faut savoir que j'ai fait ma thèse de médecine sur la relation médecin-patient au regard du végétarisme, et ce que j'ai montré, c'est que les patients le disaient peu. Alors médecin traitant, pour une raison de pour pas être jugé principalement.
D'accord.
Oui, non, c'est on part de loin sur les alimentations végétales et en fait parce que j'ai eu quand même 1500 questionnaires. On commence à avoir une petite étude qui est parlante quand même où une bonne partie plus d'un tiers ne disait pas leur médecin à cause de situations antérieures où ils l'avaient dit et ça s'était mal passé. Et dans ceux qui l'avaient dit, il y a encore un tiers qui disait que ça s'était mal passé, quoi. Alors je leur demandais un peu aussi de préciser, alors mal passé, est-ce que c'était un ressenti ou est-ce que c'était le médecin qui conseille carrément de manger de la viande, quoi. Et il y a un peu des deux, quoi. Des fois, c'est carrément le médecin à dire non, faut manger de la viande pour être en bonne santé, alors ce qui va à l'encontre des recommandations quand même. On peut faire sans. Voilà. Mais surtout, le problème, c'est que ça nuit à la relation thérapeutique. Et après, c'est des patients et des patientes qui ne le disent plus parce qu'ils n'ont pas envie qu'à chaque fois qu'ils disent... Mais au-delà de ça, en fait, ils vont plus dire leurs symptômes. En fait, ils ont peur que dès qu'ils disent un symptôme, le médecin va leur répondre « Vous n'avez qu'à manger de la viande et ça ira mieux. » Je montrais aussi qu'ils avaient une tendance à arrêter leur traitement plus vite que ce qui était prescrit. Et plein de choses comme ça, en fait, où je montrais que la relation thérapeutique est vraiment mise à mal parce que on n'a pas considéré ce que la personne nous a indiqué. Et c'est ce que je disais un peu au début du podcast, la personne qui est végétarienne ou végétalienne, ça fait partie de son identité aussi. Et quand on commence à remettre en cause, puis j'ai envie de dire gratuitement, quoi, comme ça, on part pas sur une bonne relation, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une tendance aussi à en parler, pour que les gens puissent en parler. Et j'ai, entre guillemets, découvert pas mal de végétariens et quelques végétaliens aussi dans ma patientèle parce que j'ai posé la question, tout simplement, quoi. Et je vois bien que ça les soulage de pouvoir en parler aussi.
Ouais, et d'être compris, en plus.
C'est ça, c'est un tout, hein, c'est vraiment, vraiment un tout. Encore une fois, comme je dis, hein, l'idée n'est pas de rendre la population végétarienne ou végétalienne, mais d'accompagner ceux qui le sont et puis d'accompagner ceux qui veulent végétaliser.
Donc nous, on a un rôle à jouer très clair. Alors, parce que si tu vois, si on a un patient qui arrive en disant qu'il veut végétaliser, alors dans ce cas, autant orienter vers le médecin en disant la prochaine fois que vous allez chez le médecin, parlez-en. Et puis voilà, ça peut aider. Peut-être qu'il va, donc, il y aura la prescription de B12 si possible. Ou peut-être que le médecin va dire bon, ok, on va faire une petite prise de sang pour voir où on en est. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on
fait ? Alors, pas forcément. Alors, je suis pas sûr. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a plus un rôle au niveau des diététiciennes,
ouais.
Vraiment, d'accompagner. Nous, on peut. Alors, nous, on a aussi un rôle à jouer. Hein, et c'est vrai que. Alors, ce qui est super, c'est quand c'est coordonné.
Ouais.
C'est-à-dire que clairement, moi, j'adore quand je dis quelque chose et que le patient répond « Ah ben, c'est rigolo, la diététicienne m'a dit pareil. » Alors déjà, je me dis que je suis pas... Ça va. Mon conseil n'était pas trop érodé non plus. Mais ça fait du renforcement positif aussi, quoi, de voir qu'on est tous dans le même sens. Ça aide vraiment, quoi. Quand on peut travailler comme ça, c'est vraiment aidant. Il n'y a pas forcément besoin de faire prise de sang. Alors nous, on a aussi créé, quand je dis nous, au sein de l'ONAV, un site qui s'appelle vgclic.com.
Ouais, je suis allée.
L'intérieur,
j'ai
super.
J'ai vu les petites fiches.
C'est ça.
Ouais.
Et puis, il y a une aide aussi à la consultation. C'est-à-dire, ouais, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... nous, alors, il faut savoir que nous, les médecins, on a plein de sites en point... quoi, clic.com.
Ouais.
Dermatoclic, ECGclic, antibioclic.com, voilà. Ce qui nous permet, en fait, des fois, on se rappelle plus de la dernière recommandation sur tel sujet parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu à traiter le cas. Assez rapidement, on retrouve les recommandations, puis après, on ira se plonger dans le texte si on le souhaite. Voilà. Mais ça nous permet d'aller assez vite. Et là, pareil, un médecin qui va recevoir un patient, qui lui dit ou qui veut végétaliser, ou qui veut devenir végétarien, végétalien, ou qui l'est déjà, en fait, il rentre les données de son patient, est-ce que c'est une femme enceinte, est-ce que c'est une personne réglée, est-ce que c'est au contraire un homme, un enfant, un adolescent, et il va retrouver les conseils rapides à donner, les premiers conseils à donner en fait.
Okay.
Et qui sera encore une fois assez généraliste, moi ce que je dis souvent, j'essaye vraiment d'orienter, dès qu'il y a des questions un petit peu précises ou des situations particulières, d'orienter effectivement chez une diététicienne. Alors, comme je disais, ce qui est dommage, c'est que comme vous n'êtes pas remboursé, malheureusement, l'accès n'est pas toujours faisable. Mais il y a vraiment un travail à faire là-dessus.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments ?
Chez les végétaliens, il y a effectivement une chose à laquelle on ne pense pas très souvent, c'est l'iode.
Ah oui.
L'iode, alors déjà parce qu'il y en a dans le poisson, mais surtout le premier apport en iode, c'est le lait. En France, en tout cas. À chaque fois, j'essaye de parler vraiment de la population française. Alors, pour une raison un peu particulière, pourquoi le lait est riche en iode ? Alors, déjà parce qu'il y a de l'iode dans le lait, de base. Mais il y a aussi la particularité qu'à l'heure actuelle, et ça, c'est des données de l'ANSES, le matériel de traite, les pies des vaches, quand les vaches ont des blessures, on nettoie tout ça avec des produits iodés. On désinfecte avec des produits iodés, donc l'iode diffuse et se retrouve dans le lait.
Okay.
On pourrait dire que l'iode est presque une contamination en fait, du lait.
Positif.
Qui nous arrange bien, ce que je vais dire. Ça permet d'avoir des apports aussi en iode. Donc effectivement, quand on est végétalien, on a supprimé le poisson, on a supprimé le lait. L'iode, on en trouve dans les algues. Les algues, déjà, faut aimer.
La spiruline, ça peut être...
Alors, petit piège. Spiruline, on dit que c'est une algue. L'algue, en fait, c'est une cyanobactérie.
Ah.
Et c'est une cyanobactérie d'eau douce.
Il n'y a pas d'algues.
Il n'y a pas d'iode.
Okay.
Petit piège, effectivement. Mais c'est bien de l'évoquer, parce que ça fait partie des choses qu'on entend souvent sur la spiruline. Pareil, je préfère être clair aussi, la spiruline ne contient pas de B12. Voilà.
Ouais.
On le lit des fois aussi. Non, il n'y a pas d'intérêt là-dessus non plus. Les algues, après, ce qui est possible des fois quand on n'aime pas le goût et la texture, c'est de mettre l'algue pour cuire dans l'eau. L'iode va diffuser, notamment le riz, par exemple. Le riz qui va absorber l'eau, il va y avoir de l'iode dedans. Et ça peut permettre des apports en iode satisfaisants. Mais pour être très honnête, j'ai du mal à recommander ça, parce que déjà, faut en consommer quand même régulièrement. Faut pas trop en consommer non plus, même si on a mis des limites en France sur la concentration en iode des algues. Mais l'iode, faut pas non plus en consommer de trop grandes quantités. Là, on est sur quelque chose qui peut être néfaste quand il y en a trop. Donc, mais ça, encore une fois, ça discute avec la personne. Chacun voit ce qui est bon pour lui. Mais j'ai plutôt une tendance à dire, supplémentez-vous en iode. Et comme ça, au moins, la thyroïde fonctionne bien. L'iode, ça sert vraiment à la formation des hormones thyroïdiennes. Alors, ce qui est un peu étonnant, et c'est un sujet que j'aimerais creuser un petit peu, l'iode, parce que ce qu'on voit aussi dans les études, on voit pas forcément plus de problèmes de thyroïde chez les personnes végétaliennes ou végétariennes. Végétarienne, un peu logique, mais végétalienne également. Et alors, je me pose la question, est-ce que c'est parce que la plupart des études là-dessus ont été faites aux États-Unis, et les États-Unis, ils ont beaucoup plus de produits enrichis que nous. C'est une de mes hypothèses, mais je pense que ça mérite d'être creusé. Faut savoir, pour prendre un exemple bête, donc nous, par exemple, on a le sel qui est enrichi en iode, mais qui est très peu enrichi en iode. Faudrait manger 10 grammes de sel par jour, et là, il y a aucun cardiologue qui va vous dire de faire ça. voilà. Tandis qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus enrichi, et là, ça peut avoir un impact positif, quoi.
Okay.
Mais nous, on est plutôt d'ailleurs dans des recommandations à dire qu'il faut limiter la consommation de sel. Donc non, on peut pas compter là-dessus pour avoir des apports satisfaisants. Donc c'est peut-être un autre point d'attention. Et il y a un dernier point, on va dire, de discussion. Ça va être pour le DHA. DHA, alors là, pour les populations végétariennes et végétaliennes, pourquoi un point de discussion? Parce que on a déjà des recommandations qui ne sont pas claires. Il faut savoir que c'est un des nutriments où on parle plus d'apport satisfaisant que de recommandations nutritionnelles, parce que on n'est pas arrivé à établir quelque chose de vraiment fiable. Bon, là, pareil, hein, les recommandations datent de 2011-2012, me semble, de l'ANSES là-dessus. Donc, ça mériterait sans doute aussi d'être mis au goût du jour. Et pourquoi je dis que c'est en discussion, c'est que, en fait, du coup, l'ANSES s'est basé sur qu'est-ce que la carence en les personnes carencées en DHA, quelles vont être les pathologies qu'ils vont avoir. Et on voit que la plupart de ces pathologies-là diminuent quand on végétalise son alimentation. Donc, est-ce qu'il y a des phénomènes de compensation? Est-ce que, voilà, ça fait partie des choses où on n'a pas une réponse claire. La réponse que je donne habituellement et qu'on donne avec un collègue sur le DHA, c'est si ça vous inquiète, prenez-en. Si ça vous inquiète pas, prenez-en pas.
Okay.
Et c'est plus à ce niveau-là, en fait. Ça sert à rien de rester avec une inquiétude. Alors, faut savoir, par contre, se complémenter en DHA, ça coûte un peu plus cher que la vitamine B12. Mais alors pareil, il faut limiter, faut pas prendre non plus des grammes et des grammes. Généralement, on est plutôt autour de 500 mg. Parce que pareil, trop haut, c'est pas non plus satisfaisant. Ça peut être un point d'attention. C'est un des points où, autant, j'ai pas le sentiment que les recommandations sur la B12 vont changer concernant les végétaliens. Autant sur le DHA, peut-être que dans l'avenir on dira un peu autrement, parce que on n'a pas une réponse claire, quoi. C'est voilà. Et la dernière vitamine dont on peut parler, mais ça serait presque plus pour la population générale, c'est la vitamine D.
Oui.
Mais ça, vraiment, on se rend compte que l'alimentation en apporte très peu. Pas suffisamment en tout cas. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de discussions au niveau de l'utilité de la vitamine D. On considère notamment pour les enfants, là, on est plutôt à avoir un consensus, c'est-à-dire oui, il faut complémenter en vitamine D, mais tous les enfants. Donc là, il n'y a pas une spécificité de l'alimentation. Voilà, un petit peu, si on fait le tour un peu des nutriments. Après, des points d'attention, il y en a dans toutes les alimentations, quoi.
Si je reviens sur l'iode, comme tu disais qu'il ne faut pas non plus trop en prendre, là c'est utile alors de faire une prise de sang annuelle, par exemple, pour regarder?
Alors, ce qui peut être utile, c'est de regarder si donc la TSH, de voir si effectivement la thyroïde fonctionne bien. Le dosage sanguin en iode n'est pas hyper informatif. On peut faire des fois un dosage sur les dernières 24 heures dans les urines, mais auquel cas, en fait, on a... on a les apports en iode des derniers jours.
Ah oui.
Donc pareil, c'est plus compliqué, on va dire, d'arriver vraiment à savoir où on en est. Bon, regardez si la thyroïde fonctionne bien, c'est déjà un bon...
Donc TSH, fois par an...
Après, alors, sur le rythme de fréquence, j'aurais plutôt une tendance à dire, en absence de symptômes, peut-être pas s'alarmer outre mesure, quoi. Après, ça fait partie des choses, c'est quitte à faire une prise de sang, bon...
Oui.
Autant aller voir la TSH, quoi. Mais ça serait plus, on va dire, s'il y a besoin d'en faire une. Mais si on n'a pas de symptômes, et quand la thyroïde fonctionne pas bien, la thyroïde, c'est quand même un organe essentiel, l'hormone thyroïdienne, on le sent quand il y a des soucis. Mais oui, il faut pas hésiter à avoir peut-être la prescription de TSH plus facile que... Et encore que, en le disant, je me dis... j'essaye d'imaginer une situation, en fait... un cas clinique où je me dirais là, s'il n'était pas végétalien, je doserais pas la TSH, mais non, dans tous les cas, une personne qui vient avec une fatigue, par exemple, une fatigue chronique, d'aller voir un peu ce qui se passe, quelle que soit son alimentation, on ira voir la TSH. Je pense pas que ça soit une spécificité à part entière. Quoi.
Parfois, on lit qu'il faut aussi doser T3, T4. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, les recommandations actuelles sont de doser que la TSH. C'est les recommandations officielles. Après, des fois, on peut être amené effectivement à doser alors plus la T3 que la T4, mais dans des situations un peu particulières. Mais globalement, sur les recommandations de santé à l'heure actuelle de la Haute Autorité de Santé, c'est la TSH.
Ok, c'est très clair. Alors, on a parlé des sportifs. Est-ce qu'on peut parler maintenant des enfants? Est-ce que les enfants peuvent avoir une alimentation végétarienne? plus loin, végétalienne.
Réponse courte, oui. Réponse longue, ça...
Oui, mais.
Oui, mais, c'est ça. Oui, mais, encore une fois, en étant accompagné. D'autant plus, en fait. Alors, ouais. À l'heure actuelle, on n'a pas des... pour les populations végétariennes, il n'y a pas de grande source d'inquiétude. Ouais. Déjà parce que les besoins en B12 sont inférieurs aux populations adultes. Donc, plus facilement, on les compte plus facilement, même si, encore une fois... Et tu l'auras compris sur la B12. Vous posez la question de la B12, prenez de la B12. Quoi, ça sert à rien de se poser. Et puis, ça sert à rien de rester avec une inquiétude sur quelque chose qui aura pas d'effet négatif, quoi. Les protéines, là, c'est carrément un non-sujet. Pourquoi je dis que c'est carrément un non-sujet? C'est parce que les demandes énergétiques des enfants sont telles que, à moins de lui donner que de l'huile et du sucre, ce qui serait, il y aurait d'autres problèmes, encore une fois. Voilà, là, à l'heure actuelle, les enfants consomment, on peut même le dire, trop de protéines. Autant je disais 1,5 g, voilà, c'est plus que les recommandations. Autant les enfants, au début, on va être quasiment à 3 grammes, quoi. Non. Pareil, on parle dans différentes situations. Végétaliser l'alimentation des enfants, oui, ça clairement. Végétarien, donc comme je disais, ça pose pas de grands soucis. Végétalien, là effectivement, déjà la B12, là faut être hyper carré dessus. Et après, faut essayer de. Il y a plein de difficultés qui vont être là. Alors notamment, si l'allaitement est souhaité et possible. Super, à condition, toujours pareil, que la maman soit une alimentation équilibrée, mais ça, voilà, une évidence. Et après, sur les préparations infantiles, et j'insiste là-dessus, avant 1 an, voire avant 3 ans, les boissons soja, lait, avoine, tout ça, on oublie. Mais comme on oublie aussi le lait en brique, voilà, faut des préparations adaptées pour les enfants, quoi. Faut être assez clair là-dessus. Ouais. Voilà, on voit malheureusement régulièrement.
Ça existe alors du lait infantile.
Oui, ça existe, mais qui est pas toujours simple à trouver.
Ah ouais.
Ce qui est pas toujours simple. On parlait à un moment donné du soja, par exemple. Il y a eu tellement de craintes sur le soja qu'actuellement en France, on ne trouve pas de préparation infantile à base de soja.
C'est à base de quoi alors ?
Riz principalement. Après, faut savoir que les préparations infantiles, par contre, elles ont cet avantage-là, c'est hyper encadré.
Ouais.
On fait pas n'importe quoi avec une préparation infantile. Hein. La préparation infantile, si elle veut être commercialisée, faut qu'elle montre patte blanche, faut qu'elle y a un cahier des charges qui est carré. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on oriente là-dessus aussi. Donc vraiment, voilà, s'orienter vers des préparations infantiles. Et là, je crois qu'il faut vraiment encore plus pas hésiter à être accompagné par une diététicienne formée.
Moi, honnêtement, je ferais pas, tu vois.
Oui, oui, non, mais et c'est bien de savoir ses limites aussi. Hein. Clairement, quoi, je veux dire, on a tous des limites. Et à la limite, vaut mieux dire écoutez, je suis désolé, je sais pas faire, que partir sur un truc qui va pas être. Alors, nous, on a mis en place, pareil, pour accompagner les populations qui le souhaitent, sur VGClic encore, des plans de diversification, par exemple. Parce que comment on diversifie, c'est pas marqué dans le carnet de santé, hein. Ouais. Clairement. Alors heureusement, il y a d'autres pays qu'on fait des recommandations pour les populations végétariennes et végétaliennes. Je vais reparler du Canada. J'aime beaucoup le Canada pour plein de raisons, déjà parce qu'ils ont un côté francophone, que ça évite de mal comprendre. Voilà, même si maintenant ça va l'anglais, on s'y fait, mais bon, au moins quand c'est francophone, on n'a pas une erreur de traduction ou un truc où on est allé un peu vite. Et du coup voilà, mais là faut vraiment vraiment pas hésiter à être accompagné. Après les contraintes vont être toujours sur la mise en collectivité, comment ça va se passer, comment on va faire, comment là il y a plein de questions et où on n'a pas toujours les réponses, quoi. C'est on va dire ça reste encore compliqué. Donc, clairement, d'un point de vue social. Mais voilà, faut pas être c'est possible.
C'est possible.
Ouais. Mais en étant accompagné en tout cas je préconise un accompagnement par une diététicienne formée au sujet.
Ok. Tout à l'heure, je voulais te parler du calcium.
Oui.
Aussi, parce que donc, chez les végétaliens, pas de produits laitiers.
Tout à fait.
Et donc, on pourrait se dire, mais ça va être difficile de trouver les 950 mg de calcium dont on a besoin jour.
Alors là-dessus, effectivement, le calcium, c'est un point d'attention. C'est-à-dire, ce que nous montrent les études, c'est... les études nous montrent plusieurs choses. La première, c'est que probablement que les végétaliens et les végétaliennes ont besoin d'un peu moins de calcium. Alors ça, c'est pour... une raison très simple, c'est l'OMS qui appelle ça le paradoxe du calcium, mais qui est que le fait de consommer des produits animaux augmente un peu la calciurie.
Ah oui.
C'est-à-dire la fuite urinaire de calcium. Donc, on a une tendance à penser qu'il y aurait des besoins un peu diminués. Mais je dis bien, un peu.
Tu sais pas.
Alors, certaines études vont jusqu'à 525 mg.
Ouais.
Les anglo-saxons sont plutôt autour de 700.
Okay.
Ça me semble pas mal, 700.
Ouais.
Je jouerai pas trop avec le feu, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Voilà. Et en sachant que ce que nous montrent les études sur les apports, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité chez les végétaliens. Il y a des végétaliens, même à 1000, sans problème, ils ont le calcium.
Ils vont chercher où alors? Dans tous les légumes
On trouve du calcium un peu partout. Tout ce qui va être chou, notamment chou kale, ouais. On trouve dans les amandes.
L'eau peut être.
Dans l'eau aussi, peut être aussi un apport. On en trouve vraiment partout. Alors qu'on dit en moyenne aussi bien absorbé que le calcium des produits laitiers. Et j'insiste sur en moyenne parce que il y a le brocoli, par exemple, ou il y a des plantes qui ont ce qu'on appelle des oxalates qui vont nuire à l'absorption du calcium. Donc, même si la plante contient beaucoup de calcium, finalement, on en absorbe assez peu. Mais il y a d'autres plantes qui, au contraire, ou à d'autres aliments, on peut penser aux légumineuses, fruits secs, qui vont contenir du calcium qui est bien assimilable aussi. Donc, pour simplifier un peu la vie dans les calculs, on considère qu'en moyenne, c'est aussi bien que les produits laitiers.
On peut prendre des boissons végétales enrichies aussi, ça existe?
C'est ce que j'allais dire. C'est que, par contre, effectivement, parce que ce que je disais, donc il y a des végétaliens qui ont consommation bien en calcium, mais par contre, on voit aussi dans les études qu'il y en a qui sont ras des pâquerettes, qui sont en dessous même des 525. Et là, ça commence à devenir problématique. Et là, effectivement, le conseil qu'on donne, c'est toutes les poissons végétales, faut les prendre enrichies en calcium. Ça vient remplacer. Alors, ça remplace pas au niveau nutritionnel le lait, soyons clairs. Il y a rien à voir entre les deux, même. C'est deux mondes différents. Quitte à prendre des boissons végétales qui viennent remplacer dans l'utilisation, parce qu'on a des produits laitiers, il faut les prendre enrichis en calcium. Je pense que, pareil, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser là-dessus. Faut essayer de se simplifier la vie des fois, c'est bien.
Et donc, pour les enfants, alors, avec une alimentation végétalienne, là, d'office aussi.
D'autant plus, effectivement. Alors, comme dit, dans les premières années, faut prendre ce qui est enrichi en calcium. Peut même se discuter à un moment donné, pourquoi pas, une supplémentation en calcium. Je pense que c'est là où faut pas hésiter un petit peu, et notamment sur les enfants. C'est pour ça que je dis d'être accompagné.
Ouais.
Quand même si. Ce qu'on observe dans les études, il y a des études qui ont suivi des enfants végétaliens et a priori ça se passe bien. C'est des enfants qui grandissent bien, qui se développent bien, tant au niveau psychomoteur que psychique. Donc on a une tendance à être rassuré. Mais je trouve que allons voir une diététicienne. Mmh. Si on peut, alors c'est toujours un peu compliqué, encore une fois, on en revient souvent là à question argent, je pense que c'est aussi s'épargner beaucoup de doutes.
Ouais.
Tout simplement.
Ça va rassurer complètement, ouais.
On peut espérer qu'un jour on ait des recommandations qui soient hyper claires, qu'on ait plus de recul aussi, parce que c'est ce que je dis souvent aussi, à l'heure actuelle, on est de plus en plus rassuré, et du coup on est de plus en plus rassurant. Mais le nombre de végétaliens de naissance, il n'y en a pas non plus des millions, quoi. Donc, on n'est jamais à l'abri d'avoir... Essayons un petit principe de précaution là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Mais en gardant en tête que oui, c'est possible et que les études nous montrent bien, que le développement se passe bien. Donc, a priori, on y arrive, quoi. Alors après, c'est...
Okay.
Le faire de manière le plus sécure possible, bien ça sûr. Me semble quand même préférable. Mmh.
Chez les personnes âgées, on sait qu'on a un point de vigilance au niveau des protéines, justement. Comment ça se passe chez les... Bon, je pense qu'on a compris que chez les personnes âgées végétariennes, ça doit bien se passer, j'imagine. Voilà. Bon, c'est toujours un petit peu plus compliqué chez les personnes âgées végétaliennes. Je ne sais pas s'il doit y en avoir beaucoup, alors.
C'est exactement ce que j'allais dire. À l'heure actuelle, on manque de données, très clairement. On a l'impression qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal si on a une alimentation équilibrée, bien sûr, que c'est possible. Mais effectivement, on est sur des populations très petites.
Ouais.
Et du coup, il faut rester Bah, vigilant, mais c'est intéressant aussi hein, de voir on progresse. Hein, les populations qui actuellement sont, bah voilà, vont vieillir aussi. Les populations végétariennes et végétaliennes. Donc, comment on fait pour ces populations, pour ces personnes-là? Je pense que c'est bien de se poser la question aussi. Alors, j'en parlais à un moment donné. Hein, l'intérêt des légumineuses est
en
clair.
En collation
quoi.
Aussi, d'en ajouter en collation. Alors, tu veux
oui,
dire
quoi? Oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Et surtout, ce qu'on a montré, parce qu'on parle beaucoup des protéines, et en fait, et là, les recommandations, pareil, sont très claires, même si on l'oublie des fois, l'activité physique adaptée. Je veux dire, on ne fait pas du muscle, on peut manger 3 grammes de protéines par kilo par jour, on ne fait pas du muscle, en fait, si on ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est l'activité physique adaptée chez les personnes âgées. Hein. Ça, par contre, ça a montré un intérêt pour la sarcopénie, pour l'équilibre, en termes de facteurs de fragilité, enfin, on coche toutes les cases. Quoi. Ouais. Et oui, bien sûr, accompagné par l'alimentation, mais ce qui est presque plus important que l'alimentation, pour le coup, ça va être l'alimentation, l'activité physique adaptée. Et après, sur l'alimentation, alors souvent, il y a un dégoût de la viande quand même quand les personnes vieillissent. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Alors ça, c'est un peu le problème des fois. On va comptabiliser une viande qui n'est pas mangée, des fois, dans les apports. Alors, vaut mieux apporter des légumineuses ou autres qui vont être consommées plutôt qu'une viande qui ne va pas être mangée. Quoi. Ouais. Après, il y a aussi les aspects culturels aussi. Donc là, il faut en tenir compte aussi hein, des envies. Et après, par contre, ce qu'on a montré aussi également, c'est que... c'est que la végétalisation des repas ben, améliore notamment la sensibilité à l'insuline, ce qui est un gros problème quand on vieillit. Et pour plein de raisons comme ça, ça montre aussi que ça a un impact du coup sur le catabolisme des protéines et que ça a plutôt un impact positif. Donc on montre que végétaliser aussi, encore une fois, plutôt bon pour l'alimentation. Et là, pareil, un point d'attention, je vais être un peu en boucle dessus, mais la B12 quand on vieillit. Et là, pareil, toute alimentation confondue. Il y a des chercheurs qui recommandent même à partir de 50 ans de se supplémenter en B12. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme je disais, c'est un système complexe, l'absorption de la B12. Et bah, il y a des choses qu'on fait moins bien quand on vieillit. L'organisme fait moins bien et du coup, une tendance à moins bien assimiler la B12. Premier point. Et puis, il y a la iatrogénie, c'est-à-dire ce que causent les médicaments. Et il y a des médicaments fréquents quand on vieillit. On peut penser à ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. Pour diminuer l'acidité de l'estomac. Ben ça, on sait que ça joue sur l'absorption de la B12. Et on peut penser à des médicaments pour équilibrer le diabète de type 2 qui, pareil, nuisent à l'absorption de la B12. Et bah, plein de choses comme ça, au fait qu'effectivement, on a le goût pour la viande qui diminue, donc on en consomme moins aussi, donc on a aussi moins d'apport en B12. Et quand on fait des études sur les personnes âgées, on retrouve régulièrement une carence en B12. Donc là, même quelle que soit l'alimentation, mais du coup, de fait, si on la végétalise encore plus, et une attention à avoir sur la vitamine B12.
Est-ce que c'est notre rôle, à nous, en tant que diète, de conseiller une supplémentation en B12? Tu vois, on a un patient... 50-55, tendance plutôt... Moi, je pense à des patients, tu sais, je fais des voix tout de suite en disant, bah ouais, tiens, est-ce que c'est mon rôle? Parce que peut-être que c'est pas mon rôle non plus, tu vois.
Je pense que ça en fait partie, en fait. Encore une fois, comment dire...
On va pas trop loin, quoi.
Oui, mais un peu, j'ai envie de dire, moi, des fois, je déborde un petit peu sur le travail des diététiciens. Alors, un petit peu, hein, on n'a pas du tout la même formation, je serais incapable de faire une consultation diététique. Mmh. C'est clairement pas mon métier. Mais je déborde un petit peu. Si chacun déborde un petit peu, ça permet effectivement, ce que je disais, ce renforcement positif, quoi. Ouais. C'est-à-dire d'avoir un discours qui a une cohérence. Et la personne, des fois, va l'entendre au bout de la troisième fois. On sait pas pourquoi, hein, des fois, sans le voir entre collègues, il y a des patients à qui ça fait des années qu'on lui dit de faire des trucs, et puis finalement, quelqu'un d'autre lui dit et il va le faire. Ça, c'est rigolo, des fois, parce que c'est là où faut avoir aussi, faut avoir conscience de ces mécanismes-là et pas le vivre de manière personnelle. Parce que des fois, on se dit, il y a un tel qui m'a dit de faire ça. Ouais. Oui, ça fait des années que je te le dis.
C'est clair.
L'important, c'est pas qu'il nous a entendu,
oui,
nous.
Oui, c'est qu'il le fasse, bien sûr.
L'important, c'est qu'il l'a entendu à un moment donné et peu importe qui lui a dit, quoi. Des fois, ça va être bête, hein. Ça va être une conversation à côté de la machine à café. Son collègue va lui dire. Et ça joue beaucoup aussi. Ce qui est un peu le problème, on va dire, des recommandations. Les recommandations, ça vient d'en haut. Et les gens, des fois, ce qui vient d'en haut, c'est pas toujours hyper bien accueilli, quoi. Tandis que le collègue, qui n'y connaît rien...
C'est peut-être plus concret, il y a quelque chose comme ça.
Voilà, non, il y a des représentations, il y a plein de choses. Alors ça, c'est intéressant aussi, on a montré des changements de comportement, et notamment au niveau alimentaire, fonctionnent mieux quand les décisions ont été prises en groupe.
Ah oui.
Parce que dans le groupe de pairs, c'est-à-dire dans le groupe de semblables, eh ben, quand on discute, on se convainc plus facilement que, encore une fois, quand c'est dit un peu de manière doctorale. Ouais.
Ok. Donc, moi, je peux très bien conseiller à ma patiente, là, en question,
En tout cas, lui dire que ça pourrait peut-être être intéressant de penser à la B12.
Ouais.
Ça peut être, après, à discuter. Encore une fois, l'avantage de le prendre un peu avant qu'il y ait des signes, par exemple, c'est que, du coup, sans urgence, quoi, on ne se met pas une pression dessus. On se dit, tiens, est-ce que ça peut être intéressant? Elle peut peut-être en parler avec son médecin, effectivement. Voilà, ça peut être... Mais voilà, ça peut être intéressant, effectivement, de se poser la question au moins, quoi.
Ben écoute, moi, je suis très contente parce que j'apprends plein de choses.
Parfait.
Je voulais qu'on aborde aussi végétarisme et TCA.
Oui.
Est-ce que tu as des données là-dessus ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ?
Oui. Alors déjà, c'est une remarque qu'on fait souvent, de se dire, est-ce que c'est pas... C'est une crainte qu'on a, en fait, qu'on retrouve en tout cas souvent, de se dire, bah oui, notamment, ce qu'on le disait tout à l'heure, dans la pyramide des âges, les personnes actuellement qui deviennent le plus végétarien ou végétalien, ça va être des adolescents. On sait que c'est une période un petit peu clé aussi, et la crainte qu'on a derrière, ou qu'ont certains professionnels de santé, est-ce que la personne n'est pas en train d'avoir un trouble du comportement alimentaire et ne rentre pas dans une exclusion de certains... Je veux dire, c'est une crainte qui est légitime, et je pense qu'il faut se poser la question. Mais ce qui permet aussi d'y répondre, alors déjà, les études qui nous disent que c'est pas une porte d'entrée classique, on va dire, et qu'il y a plein d'autres signes. Et la première, c'est la motivation. Et encore une fois, de discuter, c'est une occasion de discuter avec la personne, et notamment avec l'adolescent ou l'adolescente en face de nous, de ses motivations à l'être. De un, ça montre qu'on considère ce qu'il nous dit, ce qui lui fait toujours plaisir, de voir que sa parole est accueillie, voilà. Et ça nous permet aussi de faire un petit peu le point, effectivement. Dans les TCA d'exclusion, donc type anorexie, on va avoir... plein d'autres signes cliniques qui vont être là, quoi. Donc voir quel rapport effectivement il a avec la nourriture au-delà de ça. Ce qu'on dit souvent, par exemple, quelqu'un qui devient végétarien, c'est rarement par dégoût de la viande. Alors ça, les gens ont des fois un peu du mal à comprendre, parce qu'ils disent, mais vous vous privez d'un truc que vous aimez bien, vous êtes bizarre quand même. Oui, mais c'est parce que il y a une raison derrière sous-jacente. Alors les trois raisons principales. Ça va être le bien-être animal, ça notamment chez les ados. On voit que le pourcentage de raisons pourquoi les personnes deviennent végé change un petit peu. Donc la première raison, c'est le bien-être animal. La deuxième raison, souvent, c'est l'environnement. Et la troisième raison, c'est la santé. Alors c'est intéressant de voir, il y a quelques décennies de ça, c'était la santé qui était mise en avant. Et maintenant, dans les jeunes populations, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et on voit en fait que le dégoût de la viande, c'est très très rare. C'est pas une porte d'entrée classique, en fait. Donc déjà, ça nous donne des indications. Comment ça se passe à l'école, comment ça se passe au niveau des activités physiques. Enfin, il y a plein de discussions à avoir. Après, je suis pas spécialiste de TCA. Le TCA, c'est vraiment quelque chose d'à part aussi. Mais voilà, des petites clés qui permettent de se dire, là, attention, faut être vigilant. Ou il est dans une démarche d'être en accord avec ses idées. OK, comment je l'accompagne, quoi? Ça, j'aime bien, c'est mon petit... un plaisir coupable, on va dire, que j'ai. C'est les parents qui m'emmènent leur ado qui veut devenir végétarien, quoi. Et souvent, on voit... je suis désolé, mais généralement la mère qui accompagne son ado et qui me dit, il veut devenir végétarien. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Et en général, je me tourne vers l'ado parce que j'ai envie d'avoir une conversation avec lui. En général, je lui dis félicitations. Alors là, déjà, je vois le visage de la mère qui se décompose.
C'était pas ce qu'elle voulait entendre. Là.
C'est pour ça que j'ai plaisir coupable. Après, mes patients me connaissent. Ils savent que je suis un peu... je peux être des fois un peu pince sans rire. Pas avec tout le monde. Mais j'aime bien un petit peu mettre les pieds dans le plat, justement. Et là, du coup, on en discute. Et c'est aussi une discussion où j'aime bien que les parents soient là aussi.
Ouais. Ah bah oui.
Parce que ça a besoin d'être accompagné aussi, quoi. Et puis ça rassure les parents. Les parents, tout bêtement, ils sont inquiets pour quoi. C'est pas qu'ils veulent pas que leur enfant devienne végé, quoi. Mais c'est qu'ils sont inquiets, que souvent, ben c'est un âge aussi où on n'a pas forcément les meilleures relations du monde avec ses parents, je pense. On a tous vécu un peu ça. Et bah voilà, du coup, ils sont inquiets. Comment ça se passe. Donc du coup, effectivement, c'est comment on rassure et comment. Bon, voilà, qu'on ait un point de vigilance, oui, mais très rapidement, encore une fois, c'est rare que ça soit une porte d'entrée, quoi.
Ok. Voilà, donc il n'y a pas de stats qui montrent qu'il y a plus de TCA chez les personnes véganes.
Non, encore une fois, c'est pas, en tout cas, c'est pas ça qui est mis en avant. Ouais. On va dire, c'est plus des personnes qui vont se retrouver, et puis il va y avoir d'autres aliments qui vont être, ça va pas se faire dans cet ordre-là.
Ok.
Sinon, les raisons invoquées vont pas être, en gros, ils vont se retrouver, ce qu'on dirait, accidentellement végan, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à force de supprimer, ils mangent plus de produits animaux, mais c'est parce qu'ils sont rentrés dans un système d'exclusion, quoi. Et c'est là où c'est important aussi de s'intéresser vraiment aux motivations, mais comme je dis, comme on le fait avec nos patients, quoi.
Ok. Est-ce que c'est dur d'associer alimentation végétale et vie sociale?
Ça peut l'être. Ça peut l'être.
On fait au resto.
Ouais, c'est ça. Notamment, même si, alors très clairement, ça c'est beaucoup plus facile.
Non, qu'avant, tu veux dire.
Oui. Alors,
c'est vrai qu'il y a souvent un plat végétarien.
Oui. C'est beaucoup plus. Alors, végétarien maintenant, quand même, c'est quand même. À moins d'aller dans un truc spécialisé dans la viande, on arrive à trouver, quand même, sans qu'on ait besoin de se perdre dans les explications. Alors, pour la petite histoire, une vingtaine d'années de ça, quand j'allais dans un restaurant et que je demandais un plat végétarien, on me proposait du poulet.
La viande rouge, alors c'est ça qui.
Il savait pas de quoi je parle. Ou alors on me proposait après du poisson. On va y arriver, Et souvent je me retrouvais avec un plat qui était pas hyper qualitatif, quoi. Et très honnêtement, on a vu le changement. Il y a depuis 5-6 ans, c'est devenu facile. Vraiment.
Quand t'es végétarien.
Végétarien, c'est vraiment facile, je trouve. Il y a même plus. Avant, je conseillais aux gens d'appeler avant.
Ouais.
Maintenant, quand ils sont végétariens, je leur dis même plus parce que, comme tu disais, globalement, il y aura au moins un plat. Alors, l'avantage pour les personnes comme moi qui ont du mal avec le choix.
À faire des choix.
Oui.
Ah oui, au moins t'es pas. Ah oui, t'es pas embêté.
Généralement, quand j'ai la carte. Bon.
Deux, trois max, quoi, peut-être.
C'est ça. Ouais. Et après, quand on est végétalien. Là, par exemple, un petit perso, j'appelle avant.
Ah ouais.
Alors, demain, ça permet souvent aux gens de préparer un truc. Et du coup, je me retrouve avec un plat même souvent hyper quali. Parce que maintenant, il commence à avoir ce petit défi un petit peu de. Et puis, les cuisiniers, ils ont envie de bien faire, quoi. Je veux dire, ça leur tient à cœur aussi.
Peut-être qu'ils vont râler un petit peu. Non, sur le
peut-être,
coup, mais tu sais pas.
J'imagine qu'ils doivent avoir une petite blague sur le fait qu'ils vont me faire un plat avec des cailloux et des.
Ouais. C'est le vegan, là, c'est l'assiette, là.
C'est le relou qui. Je vois pas ce type de conversation-là.
Mais ça marche. Quand t'appelles, t'arrives
en appelant,
à avoir.
Moi, je trouve. Alors, faut faire la démarche d'appeler, ce qui n'est pas toujours évident aussi. Et après, quand je vois en restaurant, et puis les retours que j'ai. Sinon les gens demandent, on arrive à voilà, mais c'est vrai que c'est toujours un peu inconfortable. Ce que je disais c'est là où il y a un caractère effectivement sur la au niveau social et quelque part faut être un peu armé pour ça aussi, c'est-à-dire que ça peut être compliqué de pas être dans la norme, mais ça dans toutes les normes.
Oui, quand tu bois pas d'alcool, c'est compliqué.
Par
aussi,
exemple, tout à fait. Ouais. C'est dès qu'on n'est pas dans la norme, ça devient un petit peu compliqué, mais c'est pas une raison pour rentrer dans le moule, c'est déjà clair. Et puis, ça mérite d'être aussi entendu. Des fois, aussi d'en discuter, quoi. Et c'est là où je dis souvent, moi, le conseil que je donne aux personnes véganes notamment, c'est de tisser des liens. Parce que, notamment, et ça, c'est la magie un peu, on va dire, des réseaux sociaux, on arrive plus facilement à tisser des liens. Mais voilà, de pas rester tout seul dans son coin, ça permet, de se sentir un peu, c'est important, en fait. Vraiment, la vie sociale, c'est hyper important. Et la vie sociale autour de l'alimentation, c'est, particulièrement en France, j'ai envie de dire, pour avoir un peu voyagé aussi. Moi, je suis toujours étonné, mais le premier sujet quand on rencontre des Français à l'étranger, c'est la nourriture du pays. Premier sujet qu'on va aborder, quoi.
C'est clair.
Et pour avoir discuté avec d'autres amis qui ne sont pas français, ce n'est pas forcément la première question qu'ils abordent. Ouais. Mais nous, elle va, si ce n'est pas la première, c'est la deuxième, quoi. Mais il y aurait une remarque sur l'alimentation, ouais, qui est forcément moins bien qu'en France. Hein.
C'est sûr. Et chez des amis, enfin, tu sais, quand tu es invité chez des amis,
oui,
bon, j'imagine que tu as tous les cas de figure. Tu as des amis qui vont prendre en compte et qui vont essayer de faire un petit truc aussi sympa pour toi. Il y en a peut-être.
Là, après, pareil, bah, il y a toute, il y a chaque situation. Hein. Pareil, c'est rigolo. Au début, j'ai commencé à végétaliser mon alimentation. Je le faisais à la maison et pas quand j'allais voir des amis. Parce que je trouvais que c'était une décision personnelle. Et voilà, quoi. Et en fait, j'ai des très bons amis. Et ils m'ont dit qu'au final, au contraire, je prenais des remarques de manque de cohérence, en fait.
Ah.
Il me disait, bah oui, faut savoir, quoi.
Ah ouais, d'accord. Comme quoi, t'étais pas sûr de ton choix, peut-être.
C'est ça. Donc, je les remercie parce qu'ils m'ont amené à être plus cohérent. Mais après, oui, on rencontre tous les cas de figure.
Et donc, ils te préparent quelque chose.
Il y en a certains qui me préparent quelque chose, ou je leur dis des fois, mais vous embêtez pas, vous savez, moi,
vous. Ramènes.
Alors, où je peux ramener. Ça, avec grand plaisir, je le fais aussi. Puis ça leur permet, eux, de découvrir. Ouais. Ça dépend à quel point ils sont aventureux sur l'alimentation. Ou des fois, je leur dis, non, mais vous embêtez pas. Vous faites comme d'habitude. À partir du moment où c'est pas un hachis parmentier, en gros.
Ouais, c'est pas séparé.
Voilà.
Ouais.
Et ça va, quoi.
Ok, tu arrives à te débrouiller.
Oui, mais la plupart, ils en profitent pour végétaliser leur alimentation ce jour-là aussi, quoi. C'est intéressant aussi à voir, mais après, voilà, faut que ça, je trouve, après, encore une fois, c'est personnel, mais tant que c'est dans l'échange, mais ça peut créer clairement des tensions, hein. Moi, je le vois dans mes patients, il y en a des fois qui me rapportent des situations, dures, quoi, vraiment difficiles, quoi. C'est comme un peu tous les choix, qui nous définissent, et on en revient là sur l'alimentation, hein. Vraiment, ça nous définit quelque part. Bah, malheureusement, ça amène des fois à des situations, où je sais que certaines personnes ont changé de cercle amicaux. Mmh. Parce que c'était pas accepté. Mais ça, on le voit dans tous les choix, quoi. Mais des fois, on n'y pense pas. Ça, c'est vrai que des fois, on pense pas à cette difficulté-là qu'on peut avoir au niveau de la vie sociale, quoi.
Ouais, tout à fait. Je voulais aussi te demander, tu sais, quand même, dans les supermarchés maintenant, il y a de plus en plus d'alternatives végétales et de plus en plus de marques aussi, j'ai l'impression, qui se développent. Comment on peut faire pour faire les bons choix, encore une fois? Parce que c'était mon sujet de BTS d'ailleurs. On avait dû comparer, tu sais, une alternative végétale qui était ultra transformée. Oui. Enfin, tu vois, c'était. Voilà. C'est là que je veux en venir. Est-ce que parce que c'est végétal, c'est forcément mieux? Comment on fait pour savoir?
Alors, je vais citer le professeur Mariotti, qui est professeur à AgroParisTech et qui était président du comité expert nutrition de l'ANSES. Et il a cette formule que j'aime beaucoup. Toute alimentation saine est végétalisée. Toute alimentation végétalisée n'est pas saine. Voilà, et donc ça vient rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire c'est pas parce que de fait on végétalise qu'on va être bien. Ce que je dis souvent, on peut être végane et manger des frites matin et soir, hein. C'est cuit dans l'huile, aucun problème, quoi. De là à dire que c'est sain, il y a un pas que je ne franchirai pas. Voilà, donc déjà, premier point, hein, c'est ça, on le montre en fait clairement, les chercheurs ont mis en place des index de végétalisation. Il y a des index sains et des index pas sain, j'aime pas dire malsain, je trouve que c'est un mot, voilà, mais
moins sain,
et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, diversifier l'alimentation, oui, mais il faut la diversifier de manière saine. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est les recommandations un peu qu'on a tous, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas de grande surprise, hein, c'est des céréales complètes, des légumineuses, des fruits et légumes frais, de manger plutôt des aliments peu transformés, et d'éviter les sucreries, les desserts, les sodas, tout ce qui va être raffiné, voilà, ça, on crée déjà deux axes, on va dire. Après, il faut se dire, qu'est-ce que ça vient remplacer? Sincèrement, on ne pourra pas faire pire que la charcuterie.
Et ben voilà, tu vois ce que je voulais te dire, parce que ce week-end, on est allé chez des amies qui est végétarienne, tendance végétalienne, et elle me montrait des lardons. Alors, pas des lardons, enfin, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle.
On peut dire lardons, il y a eu le.
Lardons, on a le droit.
L'arrêté.
Des lardons végétaux, alors on a le droit.
Tout à fait.
Donc moi, mon premier réflexe, évidemment, parce qu'elle me demandait, elle me dit, regarde ça. En fait, elle se sentait un petit peu coupable parce qu'on a ouvert le frigo. Elle dit, ah bah ça, j'en achète de temps en temps, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, bien sûr, premier réflexe pour moi, c'est de retourner et de regarder l'étiquetage. J'étais super surprise. Et moi, qui ne suis pas végétalienne, mon premier réflexe, c'était de me dire, mais bien sûr que je vais acheter ces lardons-là. Tu vois,
oui.
Parce que j'ai regardé les acides gras saturés.
Oui.
Évidemment.
C'est ça.
Et je me suis dit, et elle, bon, j'ai pas goûté. Elle m'a dit, mais ça a vraiment le même goût. Évidemment, la prochaine fois que je vais faire les courses, je vais, si j'ai envie de me faire des lardons, je vais essayer de choisir cette option. Parce que, honnêtement, alors je fais la promotion de rien, il n'y a pas de marque, quoi que ce soit. C'était vraiment mon premier réflexe. J'ai un peu les notions de ce qu'il y a comme lipides dans les lardons.
Non, c'est ça.
Et quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ah bah oui, il n'y a pas de débat en fait.
Ouais, il n'y a pas de...
Là, pour le... si ça a le même goût que... Bon ouais, sachant que des lardons, j'en mange vraiment
de merde. Je serais curieux de ton retour, mais c'est vrai que c'est étonnant.
Mais de manière très, très exceptionnelle, ça a été mon premier réflexe, tu vois.
Ouais, de regarder derrière. Alors ça, c'est toute la question de l'ultra-transformation.
Ouais.
Alors il faut savoir que l'ANSES travaille dessus depuis, je crois, un peu plus d'un an, pour dire que la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Parce qu'au début, on a une tendance à dire, bah oui, mais tout ce qui est ultra-transformé, c'est pas bon. Alors déjà, les impératifs en nutrition, merci. Premier point. Et puis finalement, quand il s'agit de définir c'est quoi un produit ultra-transformé, ça devient plus compliqué. Alors actuellement, on utilise beaucoup l'échelle NOVA, la classification NOVA, entre NOVA 1, 2, 3, 4. Et on dit, ben voilà, si c'est NOVA 4, ben, c'est que c'est l'ultra transformé et donc faut les limiter au maximum. Mais même là, on se rend compte que la définition de NOVA 4, c'est pas si évident que ça. Et j'aime bien prendre un exemple simple qui est le tofu. Et ben le tofu, donc qui est du soja coagulé, en fonction de l'agent de coagulation, il va être... il va être NOVA 3 ou 4, tout simplement parce qu'on va considérer est-ce que l'agent de coagulation, on en trouve dans les cuisines ou pas.
Ah oui, d'accord.
Et là, on se dit, c'est fragile quand même. Voilà. Mais bon, alors comme je dis souvent, la classification NOVA a l'avantage d'être simple, mais elle a le défaut d'être simple, et que c'est pas aussi simple que ça. Quand on fait les différents, quand on étudie et qu'on fait des séparations en fait dans les différents groupes dits ultra transformés, et ben notamment déjà on voit qu'il y a un écart entre les produits animaux et les produits végétaux. Globalement, et encore une fois, globalement, les produits végétaux dits ultra transformés, ben ont pas ce caractère nocif sur la santé et souvent en plus ont des externalités meilleures sur l'environnement. Donc on a une tendance, encore une fois, c'est pas, enfin en plus dire c'est la panacée, on a trouvé, voilà, mais c'est moins pire. Voilà. Donc c'est ce que je dis souvent. Parce que des fois quand on parle de ces galettes végétales, on me dit ah oui non mais ça vaut pas le fait maison. Oui, mais est-ce qu'on allait manger du fait maison quand on se décide à prendre une galette? Bah non. C'est qu'on allait prendre un autre produit ultra transformé. Donc c'est pour ça que je dis notamment sur la charcuterie quand on fait des pâtes avec des lardons, mettre à la place des lardons végétaux. Oui, on n'allait pas se faire un plat d'épinards, quoi.
C'est
faut
clair.
Pas non plus se mentir, quoi.
Bien sûr.
Et là-dessus, du coup, mon conseil, c'est effectivement, on a un outil que je trouve intéressant, qui est le Nutri-Score. Soyons clairs, il est pas parfait, mais encore une fois, moi, je vise pas la perfection, donc ça va. Mais il est intéressant. Mmh. Et surtout, il a démontré scientifiquement, et c'est ça qui m'intéresse, son intérêt. Et effectivement, encore une fois, c'est pas de d'interdire les aliments qui seraient mal classés au niveau du Nutri-Score, mais de les limiter. Et là, pareil, quand on fait un choix de consommer un produit transformé, voire beaucoup transformé, mais qui est à base végétale, autant choisir un qui a un meilleur Nutri-Score. Et ça, on a vraiment montré que ça avait des impacts positifs sur la santé. Et au final, on se retrouve avec des produits qui sont, encore une fois, c'est pas du fait maison, mais qui a le temps de faire du fait maison tout le temps, quoi. C'est pas non plus, voilà. Et puis encore une fois, le fait maison, on pourrait aussi en dire beaucoup. Mais voilà, ça peut être une aide. Alors je sais pas si toi t'avais repéré ça effectivement dans ton mémoire de diététique, mais ça peut au moins aider. Il faut vraiment être concentré sur qu'est-ce que ça vient remplacer, quoi. Et c'est presque alors c'est aussi beaucoup utilisé par les gens qui veulent végétaliser leur alimentation. C'est une manière de végétaliser son alimentation à moindre coût. Alors un moindre coût, changement de comportement, j'allais dire, parce que malheureusement, des fois, c'est des produits qui coûtent rapidement cher.
C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais.
Et alors rapidement cher, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais parce que la grande distribution se rend compte qu'il y a un marché dessus et les font payer plus cher. Quoi, j'en avais discuté avec des distributeurs, hein, notamment de Lardon, et qui me disaient, bah nous, on est des fois un peu, on leur vend à tel prix et puis on voit que c'est revendu à tel prix. Quoi.
Ouais.
Donc il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais je pense que ça peut vraiment aider à faire une transition alimentaire. Ouais.
Ouais. Et quand tu parles du Nutri-Score, est-ce que le Nutri-Score compare les aliments de la même catégorie? Ça, c'est important
ça.
De le rappeler.
Oui, c'est un écueil assez souvent.
Ah, qu'on ne se dit pas, ah, mais l'huile d'olive, bref. Ou les frites, ça peut être en fonction de... Voilà, parce qu'on ne compare que les frites entre elles.
C'est ça.
Mais le Nutri-Score, est-ce que... C'est vraiment une question, je ne me suis jamais renseignée d'ailleurs. Est-ce que les lardons, ça compare les lardons... animaux et lardons végétaux.
Alors là, pour le coup, on va être un peu sur la même catégorie d'aliments, effectivement.
Ouais.
Après, c'est encore une fois, ça répond pas à toutes les questions le Nutri-Score, ouais. Je suis d'accord avec toi. Par contre, il a été fait pour rester dans la même.
Si on voit, par exemple, je sais pas, les lardons végétaux B, les lardons classiques E.
Je pense qu'on va t'imputer un petit peu là-dessus,
ouais,
effectivement.
C'est ça. Donc c'est pas les lardons végétaux qui sont.
Oui. Bah après, on peut les comparer entre lardons végétaux aussi. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire entre produits tout près végétaux, c'est là où on peut faire la comparaison déjà dans cette catégorie-là. Quoi.
Okay.
En gros, c'est le Nutri-Score est intéressant. Plus on affine la catégorie dans laquelle on veut entrer, et plus il va être intéressant. Donc déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais manger à midi? Si on part sur des lardons, OK. Bon, des lardons, déjà, on va pas regarder le Nutri-Score des épinards, encore une fois. Voilà. Donc, hop, on se positionne dans les lardons. Bon, est-ce que j'essayerai pas de végétaliser mon alimentation pour ce repas-là? Bon, je pars sur des lardons végétaux. D'accord. Et maintenant, au sein de cette catégorie, que nous dit le Nutri-Score?
Ouais.
Et là, du coup, on est sur quelque chose d'intéressant, okay. Vraiment, quoi.
OK. Et donc, alors, si je pars du principe que c'est des personnes qui vont végétaliser leur alimentation et qui sont en manque d'idées.
Oui.
Parce que tu vois, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est bien les protéines végétales, on est content, c'est vrai qu'on peut le faire en galette, on peut le faire en gâteau, il y a quand même pas mal de manières de les cuisiner, mais si on en a un petit peu marre et qu'on a envie de se tourner vers... je sais pas, un truc peut-être on aime, genre cordon bleu, tu vois, on prend aussi, c'est quelque chose qui est à la base transformé.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a quand même des petits tips, des trucs qu'on peut regarder sur l'étiquette en se disant, non, c'est peut-être pas super quand même, quoi. Sachant qu'un cordon bleu, on est bien d'accord, un cordon bleu traditionnel, ça n'est pas non plus.
C'est loin d'être super non plus. Non, je pense que là-dessus, il faut aussi se demander... À quelle fréquence on le fait?
C'est ça, ouais.
Je veux dire, si c'est un repas qu'on fait comme ça, sincèrement, il ne faut pas non plus se mettre une pression. Encore une fois, l'équilibre nutritionnel, il ne se fait pas sur un repas, heureusement. On serait quand même en difficulté. Non, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir une approche déculpabilisante de l'alimentation, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, quitte à se faire plaisir, autant se faire plaisir. Comme il faut, quoi. Si ça doit être à ce moment-là, pour plein de raisons, on part sur un cordon bleu, déjà, effectivement, si on se dit de le prendre végétal, on sera déjà sur une catégorie probablement moins pire.
Ouais. Ok.
Voilà.
Voilà, mais pas non plus forcément se dire pour les personnes végétariennes, végétaliennes, c'est la solution forcément tout le temps.
Ça va être aussi, et c'est là où qui est intéressant, c'est de regarder la motivation, quoi.
Ouais.
Et là, typiquement, on peut être des fois sur des personnes végétaliennes dont la motivation santé n'est pas au premier plan. Ça se respecte aussi, c'est
tout,
une question
tout
de choix.
Respecte,
hein. C'est voilà. Donc, et pourquoi pas, quoi. Ouais. Et pourquoi pas. Après, on sait que c'est pas le meilleur. On sait que peut-être qu'un jour sur notre santé, il y aura une conséquence. On est prêt à. Et puis après, des fois, on a. Pas le choix, c'est là aussi, il faut déculpabiliser. C'est que des fois, on a un travail qui nous permet, qui fait que quand on rentre, on est hyper fatigué, on a des enfants à s'occuper, on a les devoirs, plein de trucs, et on n'a pas le temps de faire. Et puis, on a juste pas la disponibilité de partir sur des repas. C'est pas grave. Finalement, notre énergie, on la met ailleurs, et c'est qu'on considère que là, on doit ou qu'on n'a pas le choix. Hein. Encore une fois, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein, ça se saurait. Et des fois, dans nos possibilités, c'est ça qui est possible. Donc on essaye de faire, j'allais dire, le moins pire dans nos possibilités,
ouais,
mais
ouais,
ça reste nos possibilités, quoi. C'est pas non plus. Voilà, faut, je pense, être assez à l'aise avec ça, quoi, et pas, et que la culpabilité ne nous aidera pas à faire mieux. Hein.
Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quand même des catégories de personnes pour qui l'alimentation végétalienne n'est pas conseillée ? Alors moi, je pense aux personnes qui ont le côlon irritable.
Alors effectivement, il y a des comment dire ? On peut toujours. Il y a toujours, quoi. En tout cas, j'ai l'impression qu'on trouve toujours une solution. Mais cette solution, elle est plus ou moins simple, elle est plus ou moins accessible. Donc c'est là où il faut regarder ce que je disais tout à l'heure avec les rendements sportifs, la motivation qu'on a derrière, parce que des fois ça peut demander effectivement beaucoup. Alors le syndrome de l'intestin irritable, qui est assez prévalent, hein, on considère à peu près 10% de la population, hein, donc c'est une question qui peut se poser, et où on sait que les végétaux sont plus ou moins bien digérés aussi. Alors là, on va dire, mon premier conseil, c'est de, encore une fois, se rapprocher d'une diététicienne formée. Ça m'apparaît indispensable. Mais pour répondre un petit peu et dire oui, c'est possible. En fait, dans les protocoles qu'on voit de soins, donc c'est d'abord sur une alimentation pour en FODMAP, mais ça, je pense que Paris, tu le maîtriseras beaucoup mieux que moi, qui est une alimentation qui doit être temporaire. Hein,
ouais.
C'est, ça n'a pas vocation à durer des années. Et donc, on diminue tout plein de produits végétaux, notamment, clairement, parce que c'est. Mais on diminue aussi, du coup, ce qu'on appelle des prébiotiques, qui viennent nourrir, en fait, le microbiote. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'après, on réintroduit un par un les aliments, d'abord en petite quantité, puis de plus en plus. Et on arrive quand même, alors je crois que de mémoire, c'est à 75% d'amélioration, à le faire. Mais effectivement, plus on a des difficultés ou des spécificités, plus il va falloir être attentif, parce que à la fois, alors moi j'ai l'impression que la gamme s'élargit quand on végétalise notre alimentation, parce qu'on découvre plein de trucs, mais à la fois aussi il y a des aliments sur lesquels on fait une croix, et du coup oui, ça peut devenir, c'est pour ça que je dis, dès qu'il y a des particularités, une diététicienne formée, c'est quasiment indispensable, quoi, hein, c'est vraiment vraiment important d'être bien accompagné. En fait, voilà, c'est ça. C'est d'autant plus important d'être bien accompagné qu'on a des particularités.
Ouais.
Mais à ma connaissance, j'ai pas de connaissance d'échec vraiment où on n'y arrive pas, quoi.
Mmh.
On arrive généralement à trouver quelque chose qui soit acceptable pour la patiente, quoi, ou pour le patient.
D'ailleurs, il y a une application qui existe, j'ai perdu le nom, je mettrai dans les ressources, mais FODMAP, et donc en fait cette appli, tu tapes le nom de l'aliment et tu vois jusqu'à quelle quantité tu peux en manger, alors quand c'est souvent quand tu es dans une période un peu poussée,
oui.
Ou voilà, et là c'est très clair quand on
D'accord.
te dit pour chaque catégorie et... Tu vois que parfois, à quelques grammes, c'est par pastille, donc tu vois, c'est vert et orange-rouge. Et des fois, tu vois que la frontière entre le vert et le rouge, ça peut être 10 grammes de certains aliments. Et,
c'est
vrai que cette appli est très bien faite.
D'accord,
moi, je
m'en sers
vraiment beaucoup avec mes patients qui ont besoin... justement d'avoir un point de vigilance à ce niveau-là.
Parce que j'ai oublié le nom, mais quand ça vient d'une université en Australie, je ne me rappelle plus du nom.
Mais je me demande si ce n'est pas ça.
Effectivement, on a des tableaux, on a des trucs, c'est assez codifié. Et c'est vrai que c'est pratique de pouvoir se dire, ah oui, ben là, on peut aller là-dessus. Et puis, ça apporte un vrai soulagement. Mais encore une fois, il faut être clair sur le fait que c'est temporaire, qu'après on réintroduit.
C'est ça.
Et c'est la réintroduction, on y va à son rythme aussi. Et c'est pour ça que là, un suivi, ça m'a... En tout cas, alors j'ai un titre personnel au niveau discipline, c'est pas forcément quoi. Voilà, j'aurais besoin, en tout cas moi, de quelqu'un qui m'accompagne pour faire ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent sont souvent des diététiciens, en tout cas des gens qui ont un attrait pour la santé. Pour les diètes qui écoutent, est-ce que tu as des conseils, toi, à leur donner des gens comme moi qui, finalement, au départ, n'y connaissent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se former, pour être de bons conseils ?
Alors, pour se former et être de bons conseils, alors j'ai déjà cité, c'est vrai qu'il y a le site VGClick qui peut donner des éléments. Un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il a été il est entretenu, entre guillemets, les notions qu'il y a dedans, co-construit avec des médecins et des diètes. C'est-à-dire que, moi, j'interagis très souvent avec des diététiciennes. Et ce qui est logique, quoi. Mais je préfère le préciser pour que ça soit clair.
On le voit très vite, j'ai lu un article, je crois, d'une de tes collègues diète. Ouais. Ouais.
Donc déjà, c'est important de voir un peu les ressources. Nous, on met des choses en place au niveau de l'ONAV là-dessus. Ouais. Il existe des formations, alors pas beaucoup en France, mais quand même quelques-unes. Je pense notamment à une formation du Centre de formation diététique et comportement qui a une dizaine d'heures et qui est vraiment hyper qualitative, qui est fait par une diète pour les diètes. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant, et sans y consacrer voilà, après ça dépend le pourcentage qu'on a dans nos quoi, à quelle fréquence la question revient de la part des patients et des patientes qu'on reçoit, mais voilà, on n'a pas tous envie d'y passer non plus des mois et des mois, mais ça donne vraiment beaucoup de clés pour prendre, et notamment des questions sur le syndrome de l'intestin irritable, des choses comme ça, ou et vraiment voilà, que je trouve hyper quali. Vraiment bien adapté. Après, quand on est vraiment intéressé, voire même un peu à titre perso, qu'on veut aller un peu plus loin, mais il y a le diplôme universitaire, ouais. Hein, alimentation végétarienne, donc qui se fait en ligne. Donc c'est l'avantage, on n'a pas besoin de se déplacer. Un petit inconvénient, hein, c'est moins convivial quand même, ouais. Quand c'est en ligne. Mais alors lui, par contre, il fait 70 heures. Donc c'est pour ça que je dis, il faut être déjà un peu plus motivé, quoi. C'est pas le même coût non plus, hein. Je pense qu'il y a, voilà, c'est pas du tout le même investissement, ouais. En temps et en argent. Donc là, et puis on traite de plus de sujets. Il y a l'alimentation bien sûr, mais il y a de la sociologie aussi, il y a de l'économie. Enfin voilà, on traite le sujet de manière beaucoup plus large, et peut-être par contre de manière moins spécifique au niveau consultation, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que même s'il y a aussi des cours sur le syndrome de l'intestin irritable, il y a aussi des cours là-dessus, voilà. Mais je pense que c'est vraiment les deux ressources que je conseille. Après, il y a aussi des livres.
Ouais.
Alors, les deux livres que je connais là, qui sont vraiment bien à ce sujet-là, « La meilleure façon de manger végétal », voilà, de Fabien Mardariotti et de Léa Lebrun. Léa Lebrun qui est diététicienne, hein. Et en fait, je le trouve clair, je le trouve voilà, et il répond à plein de questions aussi. Et pour pareil, je trouve il y a deux niveaux. Alors il y a leur deuxième livre, même auteur et autrice, qui est du coup La science de l'alimentation végétale.
Ouais.
Et là, ils rentrent plus effectivement quand on a envie de comprendre ce qui se joue derrière, parce que voilà, c'est deux choses différentes, mais on peut juste vouloir donner les bons conseils et voilà. Et puis après, il y a savoir aussi ses limites, hein, du coup c'est bien aussi voilà, c'est un peu les ressources que je peux donner comme ça, et qui permettent après de voilà, d'avoir des bonnes prises en charge.
Ok. Est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé et que dont tu voulais parler?
Je voulais absolument parler. On a fait déjà
pas mal
tour
de choses, hein, ouais.
Ouais, pas mal le tour. Non, ouais, je pense qu'on a balayé un certain nombre,
ouais,
de sujets quand même.
Je pense que ça va être super intéressant à écouter. Voilà,
non, après, faut pas hésiter, voilà, quand il y a des questions qui restent, hein, nous on est assez disponibles pour y répondre aussi. Et puis j'aime bien aussi les retours là-dessus. Alors, je vais prendre un exemple bête. La première conférence que j'ai donnée sur les alimentations végétariennes, je n'ai pas parlé des protéines tellement je trouvais que c'était pas un problème. C'est pour dire, en fait, moi, j'avais fait mon vu de la littérature. Ah mais des fois, on tombe à côté. Hein.
Ouais, ouais.
Et puis, au vu des retours, on va parler des protéines parce que...
Ça paraît important.
A priori, il y a beaucoup de questions dessus. Mais c'est vrai que j'avais une vision... j'avais une vision très théorique et très... voilà, dans les études, hein, c'est intéressant,
ouais.
Les études scientifiques, mais ça vaut pas les échanges.
Okay.
Et moi, c'est vrai que c'est, comme je dis souvent, moi, c'est les patients et les patientes qui m'apprennent beaucoup, finalement, parce que c'est des interrogations qu'elles vont avoir. Ça va être voilà, plein de sujets comme ça où je me dis, ben tiens, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ou je l'avais pas vu sous cet angle-là. Non. Là, ce que j'aimerais vraiment rappeler, c'est un peu le leitmotiv de notre association, qui est de dire, on a besoin de végétaliser notre alimentation. Ça, c'est un fait, c'est scientifiquement, voilà, on peut pas faire autrement. Et après, il est possible de le faire. Il est possible d'être végétarien, il est possible d'être végétalien. Voilà, et vraiment dire, oui. Alors des fois, ça demande des adaptations, il y a des contraintes, plein de questions qui se posent, oui. Et après, ce que j'aimerais vraiment donner comme message aussi, c'est... je le dis aussi dans le cours que je donne au début, mais on ne devient pas végé par hasard, quoi. Et je trouve que c'est vraiment important de considérer que la personne qui est en face de nous, qui nous dit qu'elle est végétarienne ou végétalienne, ben elle est en train de nous confier quelque chose sur sa vie finalement, quoi. C'est pas une donnée qui vient comme ça et bah, qui fait partie de son identité. Et donc à partir de ce moment-là, ben on essaye de le respecter. En fait, on peut, comme je dis souvent, moi j'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec mes patients, quoi. C'est pas la question, elle se situe pas là en fait finalement. Mais comment je les accompagne au mieux? C'est vraiment ça que je trouve important. Et puis après, j'aimerais vraiment aussi qu'un jour, on ait des vraies actions au niveau de santé publique et que les diététiciennes soient remboursées par la sécurité sociale. Ça m'apparaît tellement important.
Que quelqu'un nous écoute.
Si jamais, je tiens à ce que le message soit clair.
Jamais, ouais,
non, mais moi, j'ai souvent des patients et des patientes qui me disent, ben oui, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Et malheureusement, au niveau de la santé à l'heure actuelle, on sait pas, j'ai pas l'impression que ça soit l'orientation qu'on est en train de prendre. Et ça, c'est dommage. Je trouve qu'on a un système de soins qui est quand même performant. On a des professionnels qui sont aussi performants et performantes. Et ben voilà, ça serait bien de les considérer à juste titre, quoi. Ça serait quand même vraiment, vraiment bien. Voilà.
Le message est passé. alors, on peut te retrouver sur LinkedIn.
Oui.
Donc, Sébastien Demange.
Tout à fait.
Mais on peut aussi donc aller sur le site internet de l'ONAV, j'y suis, c'est ça, hein. Donc
oui,
tu peux rappeler le
lien, oui. L'Observatoire national des alimentations végétales.
Et le site internet, c'est
onav.fr.
onav.fr, voilà, qui est très intéressant.
Merci.
On peut donc aller sur vgclic.com.
Comme
aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sites comme ça?
C'est les principales ressources dont l'association s'occupe. Voilà. Après, je suis un petit peu aussi sur les réseaux sociaux, même si certains je les quitte un petit peu parce que c'est des fois compliqué d'avoir des partages. Mais vraiment, voilà, il ne faut pas hésiter à nous écrire, en tout cas au sein de l'ONAV. On aime tout, comme je disais, on aime vraiment les échanges et c'est vrai que ça nous permet aussi d'adapter notre discours, et puis des fois de présenter des sujets, hein, c'est-à-dire qu'il y a là, nous notamment, on a fait tout un dossier sur les protéines. Alors si les gens sont vraiment intéressés, il fait 80 pages, il ne faut pas hésiter. Mais voilà, avec tout. Alors nous, ce qu'on a vraiment à cœur, c'est les sources scientifiques. C'est-à-dire ce qu'on veut vraiment décortiquer, et ça nous tient. On fait une attention particulière. Si on dit quelque chose, derrière, il y a la source de pourquoi on le dit. Et je trouve que même dans les conversations, quoi, c'est-à-dire on peut ne pas être d'accord. Très bien, mais voilà, nous on dit ça parce que ça. Si la personne en face nous dit, ben nous on n'est pas, je suis pas d'accord parce que il y a ci, il y a ça, ben c'est super parce qu'on avance. Encore une fois, l'intérêt n'est pas d'avoir raison, mais c'est de savoir pourquoi on dit les choses. Bon, j'ai fait toute une position sur le soja aussi, donc s'il y a des questions sur le soja, j'essaye vraiment d'y répondre et je le mets à jour au moins une fois par an. Donc ça permet d'avoir des données aussi intéressantes là-dessus. Parce que je me suis rendu compte pour le coup que ça posait beaucoup de questions le soja. Là, on a fait sur la B12 aussi. Il y a sur le fer, ça devrait bientôt sortir. On a fait la vitamine D, on a fait les seniors. Enfin, voilà, dès qu'il y a une question qui se pose, on essaye vraiment de. Mais après, faut accepter aussi des fois que notre réponse soit un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que il y a des questions sur lesquelles on peut pas conclure, quoi. C'est voilà, encore
souvent,
une fois. C'est ça. C'est les études sur la nutrition des fois permettent pas de. Mais c'est aussi, je trouve, ce qui est super dans la nutrition, c'est qu'il y a pas une manière de bien se nourrir. Il y a la manière qu'on va trouver et qui nous convient. Et c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, d'être accompagné sur le chemin, c'est top, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Sébastien.
Ben,
moi, déjà, à titre perso, j'ai beaucoup appris.
Donc, ben, merci à toi. C'est toujours un plaisir d'en parler.
Super.